Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, ravi d'être avec vous hein, dans cette émission en configuration mondiale, 19h-20h30. On va naturellement revenir sur tous les résultats de cette première semaine de compétition. On reviendra aussi sur l'équipe de France hein, après les deux matchs qu'on vous a fait vivre avec El Hadji et Abou en direct. Et puis c'est pour ça qu'ils sont au repos aujourd'hui. Hein. Ils ont un repos bien mérité. On les retrouvera mercredi pour le troisième match. Par contre, autour de la table, il y a quand même des fidèles. On les salue. On va d'abord saluer notre ami Eric Liévins. Bonsoir Eric, ça va? Belle semaine de foot?
Ouais, bonsoir à tous et à toutes. Ouais. Une belle semaine. On avait commencé avec quelques matchs nuls, etc. Au départ, je me demandais un petit peu. Mais là, on commence à voir des buts, on commence à voir des équipes, il y a des surprises. C'est une belle semaine de Coupe du Monde, je trouve.
Voilà. Autre fidèle, c'est Julien, l'agent de joueur. Salut Julien, bonsoir.
Bonsoir.
Ça va?
Ça va très bien.
Régalé pour des beaux matchs? Ouais.
Ouais, des beaux matchs, des surprises. Une bonne semaine de foot.
Voilà, alors on aura aussi tout à l'heure une interview de notre ami Jacques Vangrou, pour la simple et bonne raison que Stéphane, qui était avec nous jusqu'à là, il a pris l'avion dimanche pour le Qatar. Il est parti interviewer Jacques Vangrou. Il a suivi le match qui vient de se terminer aujourd'hui entre le Brésil et la Suisse et qui a vu la victoire du Brésil face à la Suisse 1-0. Et il reprend l'avion demain, Eric, pour être avec nous mercredi pour le direct.
Hein, ouais,
France-Tunisie. Il a eu le temps quand même d'interviewer Jacques Vangrou. Donc on aura l'occasion d'avoir son interview en première partie d'émission. On retrouvera aussi Noël Tosi, l'entraîneur, coach, qui nous accompagne pendant tout ce mondial. Et puis on va commencer à donner la parole à quelqu'un qu'on n'avait pas entendu depuis un petit moment, c'est Atim. Bonsoir Atim.
Bonsoir.
Simplement parce que le Maroc va peut-être se qualifier, Atim, pour les huitièmes de finale. Oui. Le Maroc a fait un très bon match hier, victoire logique contre la Belgique 2-0. Et je sais que ça met tout le peuple marocain en joie.
Absolument, c'était un match formidable à regarder. Ouais. Ça confirme le bon match qu'on avait fait contre la Croatie.
Oui.
Qui était déjà un match incroyable niveau intensité et niveau envie, on avait envie. Le Maroc qui a fait un match XXL, même si la possession était vers la Belgique.
En première mi-temps, mais
en première mi-temps,
pas été dangereux.
Mais on est revenu fort, on a été réaliste, ce que la Belgique n'a pas fait. On a été très réaliste devant les cages avec un coaching gagnant, avec l'entrée de Sabiri. Bouffal était énervé, mais bon, juste après, il a été content. En parlant de Bouffal aussi, incroyable. Bouffal et Ziyech, deux ailiers qui ont porté l'équipe. Amrabat aussi, incroyable. Depuis le match de la Croatie, il bouge pas. C'était vraiment un match incroyable.
Oui, alors c'est vrai que cette équipe du Maroc, elle a fait preuve d'un état d'esprit phénoménal, hein, parce qu'effectivement, elle a subi en première mi-temps, bon, sans être véritablement inquiétée. C'est même elle qui a la meilleure occasion, juste avant la mi-temps, ce but qui est refusé pour hors-jeu. Et puis elle prend complètement l'ascendant en deuxième mi-temps, notamment sur le plan offensif. Vraiment une équipe qui a fait corps, super bel état d'esprit. Hein.
Oui.
C'est la force de cette équipe.
Oui, l'état d'esprit, surtout, c'est notre force, la cohésion d'équipe, vraiment se battre pour notre prochain, plus le public qui nous a aidé énormément. Je pense que grâce à cet état d'esprit, on peut aller loin de la compétition. Mais bon, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.
Il reste le Canada. Hein.
Le Canada, c'est ça. Même s'ils ont plus rien à gagner, on prend aucun risque. On vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On reste concentré, on essaye de gagner le match, on veut pas que le nul, on veut gagner le match, on veut être premier de la poule.
Alors, tu as des infos là-bas de ce qui se passe au Maroc? Je suppose que ça a été la fièvre, ça a été l'ébullition, ça a été l'effervescence.
J'ai vu j'ai des amis qui sont là-bas, c'est incroyable. Même à Dubaï, ici, la tour à Boukhalifa était en Maroc, tout le monde est derrière les Marocains, ce qui est incroyable, la cohésion mondiale envers le Maroc. Je pense que ça nous aide mentalement et je pense que ça va le faire. J'espère,
oui,
en tout cas.
Ça sera peut-être une des belles révélations de ce mondial 2022.
Ça montre que l'Afrique aussi peut faire quelque chose en Coupe du Monde. Après, Après, voir la suite, tant que c'est pas confirmé, mais on met un œil sur l'Afrique, en tout cas.
Eric, oui, le match contre le Maroc, il a été fabuleux ce match.
Il était très très beau. Ah, oui. Franchement, comme ça vient d'être dit, il y a un côté qu'il faut faire ressortir avec cette équipe du Maroc, c'est l'envie et l'état d'esprit.
Ouais,
réellement, il y a une vraie envie, un vrai état d'esprit dans cette équipe. On voit qu'ils font corps, on voit qu'ils jouent avec le mental, l'envie. Après, moi, ma petite inquiétude pour les matchs pour aller plus loin. Moi, je pense qu'ils vont faire un match. En tout cas, ils peuvent pas se louper sur le match.
Non, mais déjà, s'ils sont en 8e, le contrat est rempli.
Ouais,
non,
mais après, je pense qu'avec l'envie qu'ils ont, ouais. Moi, le petit côté, c'est que si En-Nesyri retrouve son football, parce que le En-Nesyri, pas de cette année, mais de l'année dernière à Séville, réellement, c'est un très, très, très gros joueur. Et aujourd'hui, il manque un peu. Quand on voit, ils prennent 0 but là pour l'instant, ils en marquent que 2. Donc, il y a quand même un petit problème offensif sur le côté de marquer plus de buts, pas de ne pas en marquer, mais de marquer plus de buts. Et si En-Nesyri monte, parce que Boufal et Ziyech sont à leur niveau, Boufal et Ziyech sont à leur niveau, mais si En-Nesyri arrive à se mettre à leur niveau, réellement, je pense qu'il y a une possibilité de pouvoir faire un beau match en 8e et essayer d'y croire.
C'est vrai que j'ai remarqué ça aussi plutôt sur En-Nesyri. S'il aurait eu le niveau d'avant, avec la hargne d'avant, je pense que en 8e on pourra faire quelque chose pour continuer.
Faire un peu comme l'Algérie avait fait contre l'Allemagne en 2014. Hein.
Ils avaient fait
trembler les Allemands. Hein.
C'est ça.
Les
un
Allemands
match aussi
qualifiés
incroyable.
Pour pas grand-chose. Hein.
Un match incroyable aussi, ouais. Ouais. Ok, allé en prolongation.
Oui.
C'était un match
ça,
incroyable.
Ça, c'était joué à pas grand-chose. Quand on sait qu'en plus, ensuite, l'Allemagne est championne du monde. Hein.
Ouais. Donc, franchement, c'était incroyable.
Julien, cette équipe du Maroc, une des belles révélations de ce mondial.
Une belle révélation, et puis on souligne souvent les armes offensives des pays africains, nord-africains, Maroc, Algérie, Tunisie, etc., pour la technique, etc. Mais il faut aussi compter sur la défense du Maroc, qui est une très belle défense, avec des joueurs quand même d'un très haut niveau aujourd'hui. Romain Saïs, qui fait de très bonnes choses. Ouais. On a Hakimi, on a Mazraoui, on a quand même une défense, Naïf Aguerd aussi. Ouais. Donc c'est très costaud, et il se repose un peu sur ce qu'avait établi l'ancien coach, Ali Lodzi, qui n'a pas tout changé. Il a réintégré Ziyech, il a fait quelques modifications, mais il s'appuie quand même sur une défense solide. Et ça, je pense que c'est assez important pour être souligné pour une grande compétition comme ça. Avec l'envie, avec la technique qu'ils ont, s'ils reposent sur une bonne assise défensive, ils pourront aller chercher quelques beaux résultats, je pense.
Donc c'est jeudi, hein, Canada-Maroc.
C'est ça, c'est jeudi à 16h.
16h, ok. 16h. Donc voilà, donc on en saura un peu plus donc après ce match, voir sur qui le Maroc tomberait.
L'Espagne, je crois, c'est la
d'accord,
poule de l'Espagne.
D'accord, c'est la poule de l'Espagne.
L'Espagne,
ça sera un bon match.
Mais
après la dernière Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde avait fait 2-2 contre l'Espagne.
Oui.
Et franchement.
Mais après, il y a un coup à jouer pour le Maroc parce qu'il va y avoir un match couperet. Et ça, c'est la chance du Maroc, c'est-à-dire qu'il y a un Croatie-Belgique,
que les deux doivent
se qualifier.
C'est ça.
S'il y a un match nul et que vous battez, que le Maroc bat le Canada, vous pouvez être premier de groupe.
C'est ça.
Et là, ça change la donne.
Deuxième,
là,
d'où l'importance de finir premier avec l'Espagne qui risque d'être premier dans l'autre groupe. Et bon,
si l'Allemagne remonte deuxième, c'est quand même une grosse équipe. Le Japon aussi qui joue bien, Costa Rica aussi.
Bon, on peut sous-estimer personne, mais
après le côté de l'Allemagne aujourd'hui, moi je pense que avec l'Espagne, je dis pas que parce qu'il peut toujours y avoir une surprise. Je pense que avec l'Espagne ça peut être compliqué parce que le match de l'Espagne, on l'a vu, les deux matchs, ça joue au ballon. Franchement,
c'était du haut niveau hier soir.
Il y a un gros pressing au milieu. Vraiment, il y a un pressing sur le porteur de la balle. L'Allemagne, c'est plus prenable, je pense.
Actuellement, oui, largement.
Très bien, Atim, merci en tout cas.
Merci à vous.
Je voulais que tu passes à ce micro parce que c'est vrai que c'était c'est fabuleux.
Oui,
je sais que tu vas jouer au foot. Donc, tu reviens la semaine prochaine.
Pour
nous parler du Maroc avec nos amis Abou et
avec la qualification.
J'espère.
Voilà. Et une première
et puis
place de groupe.
Tu nous écoutes pour les commentaires des matchs.
J'espère vraiment. En tout cas,
voilà. Très bien, merci en tout cas. On va donc écouter maintenant l'interview de notre ami Jacques Vendroux, d'Europe 1, que Stéphane a rencontré là-bas au Qatar. Et ensuite, ça va nous permettre d'appeler Noël Tosi, de parler de l'équipe de France et puis des autres groupes de ce début de mondial. On écoute d'abord donc Stéphane qui a rencontré aujourd'hui donc Jacques Vendroux au Qatar.
Alors Jacques, d'abord un premier sentiment sur ce début de Coupe du Monde. On approche la fin du deuxième tour, de la deuxième journée.
on s'aperçoit surtout, là, au moment où on parle, qu'il n'y a que deux nations qui sont éliminées, le Qatar et le Canada. En ce qui concerne toutes les autres équipes, les 30 équipes qui restent en lice, on s'aperçoit également que tout est jouable. Alors, il y en a qui sont en position délicate, comme l'Allemagne, évidemment, comme éventuellement la Serbie et le Cameroun, mais personne n'est éliminé mathématiquement. C'est-à-dire qu'il faudra attendre des retournements de situation incroyables à l'occasion de la dernière journée des matchs éliminatoires, si on peut parler comme ça, avant d'arriver au huitième de finale. De toute façon, moi, je vais vous dire, c'est une belle Coupe du Monde. Il y a des belles choses, il y a des surprises, il y a des buts magnifiques, il n'y a pas d'embrouille avec le corps arbitral, il n'y a pas d'embrouille, et c'est important, avec le public, il n'y a pas un incident entre supporters depuis le début de la Coupe du Monde, le métro marche bien, les stades sont quasiment pleins à 80%. Pour le moment, je ne vais pas dire que c'est un total succès parce que ce serait exagéré, mais on n'est pas loin en tous les cas d'une belle Coupe du Monde en ce qui concerne l'organisation et surtout la prestation des équipes.
Et un mot sur l'équipe de France. Est-ce que vous vous attendiez à voir l'équipe de France à ce niveau, qui est finalement pratiquement la seule équipe qui a réussi deux premiers matchs, pour l'instant en tout cas, deux premiers très bons matchs?
Eh bien, l'équipe de France de football est qualifiée pour les huitièmes de finale. C'était l'une des premières qualifiées pour les huitièmes de finale, il ne faut pas l'oublier. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que, je veux dire, malgré tous les malheurs qui sont arrivés à l'équipe de France de football, on avait l'impression que ces malheurs profitaient quelque part à l'équipe de France de football pour leur permettre d'avoir une force un peu surnaturelle. C'est-à-dire que oui, Pogba n'est pas là, Kanté n'est pas là, Benzema n'est pas là, je parle évidemment des plus importants. Bon, eh bien, ils ont trouvé une force incroyable. Et donc là, tous les joueurs qui sont arrivés sont à la fois des jeunes joueurs, des joueurs d'une petite expérience, et ils font, je dis pas qu'ils font l'intérim, parce que tout le monde est à égalité dans les 26 joueurs, enfin dans les 24 joueurs qui restent à la disposition de Didier Deschamps. Moi, je veux dire, pour le moment, ça se passe bien. Regardez, l'Australie, on a fait le boulot, on a géré, et puis contre le Danemark, on s'est surpassé, on a été mis en difficulté, et à la sortie, on a gagné.
Et alors, contre la Tunisie, il faut s'attendre à quoi? Voir jouer tous les remplaçants?
Je ne sais pas si c'est une bonne solution de faire jouer ce qu'on appelle les remplaçants de luxe. Parce que si vous êtes ici, c'est que vous méritez d'être ici. Donc, je pense que Didier Deschamps va faire ce qu'on appelle un coaching intelligent. Il va sortir quelques cadres qui ont besoin de souffler, comme par exemple Théo Hernandez, ou éventuellement, Mbappé, peut-être aussi Griezmann ou Giroud. Mais il ne faut pas changer pour changer. Il faut faire une équipe équilibrée. Il faut surtout faire une équipe avec des joueurs qui vont rentrer et qui sont capables, en tous les cas, d'intervenir au 8e tour s'il y a problème.
Et pour la suite de la compétition, est-ce que cette équipe de France, vous la sentez bien, toujours parmi les...
Écoutez, moi, je la sens très bien. J'ai pas de l'état d'esprit est bon. On a le Noël Le Graët régulièrement sur l'antenne d'Europe 1. Il donne des nouvelles, tout est positif, tout est bien, il n'y a pas de problème majeur. Je suis assez confiant. En tous les cas, l'équipe de France, en huitième de finale, est sûre, quoi qu'il arrive, de jouer soit l'Argentine, soit la Pologne, ou soit l'Arabie Saoudite. Donc, et c'est dimanche à 16h. Donc déjà, on sait que les Français, et on le saura donc forcément mardi soir à partir de 23h, parce que vous avez deux matchs à 16h, et vous avez les deux autres matchs de...
Mercredi, pardon.
Et donc, mercredi à 22h, on sera fixé sur l'adversaire. Mmh. Le lieu est déjà fixé, c'est bon. Mmh. C'est dimanche à 16h.
Et pour vous, s'il devait y avoir un top ou une belle surprise ou la meilleure nouvelle de ces deux matchs de l'équipe de France?
Ah, moi, j'aimerais que le Cameroun aille loin. Franchement, le Cameroun, ils ont fait un match contre la Serbie, mais qui est extraordinaire en intensité, aussi bien du côté serbe, hein, mais il y a ce côté fantasque des Africains et des Camerounais notamment, et dans les tribunes, mais c'était illuminé tout le temps. Et c'est ça qui est bien. Donc, si vous voulez, moi, je crois que le Cameroun peut faire quelque chose de positif. Vous avez aussi vous avez les Espagnols, vous avez... Attention, les Allemands ne sont pas encore enterrés, hein. Attention, hein. Il suffit simplement d'une bonne performance au prochain tour et les Allemands peuvent accrocher la deuxième place de leur groupe. Mais en tous les cas, ce qui est bien, vous voyez, quand vous regardez chaque groupe, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a que deux nations qui partent, le Canada et le Qatar. Tout le monde, mais tout le monde a encore des chances. Tout le monde, tout le monde, tout le monde.
Et qu'est-ce qui peut être décisif pour l'équipe de France? Pour revenir sur les Bleus, qu'est-ce qui peut être décisif? Le banc de touche, justement, la forme de Mbappé?
Oui, parce que le banc de touche, il est extrêmement costaud. Il est solide. Théo Hernandez, il se reconvertit arrière latéral gauche parce que son frère se blesse. Donc il y a beaucoup de polyvalence de la part de l'équipe de France de football en ce qui concerne son banc. Et c'est vrai que vous avez un 11 de départ a priori, mais vous avez une dizaine de mecs autour du 11 de départ qui sont capables d'assurer plus qu'un intérim. Moi, j'ai très très confiance en cette équipe et surtout confiance en Didier Deschamps.
Qui nous en a trouvé une belle quand même là, comme après Matuidi en 2018 avec un positionnement un peu nouveau. Là, c'est Antoine Griezmann qu'on voit dans un poste un peu nouveau.
Et Rabiot.
Ouais.
Et Rabiot. Griezmann qui fait un...
Voilà, bah écoutez, point d'interview donc de Jacques Vendroux. Vous êtes d'accord, Eric, avec ce qu'a dit? Tout va bien, hein, on l'a vu, hein, sur l'interview qu'a faite Stéphane à Doha de Jacques Vendroux d'Europe 1.
Ah ouais, c'est effectivement, on avait des inquiétudes, comme le dit Jacques Vendroux, on avait tous un peu des inquiétudes vis-à-vis des blessures. Et en fait, on s'aperçoit que on arrive à faire un groupe, les matchs se passent bien, tout le monde... J'ai l'impression qu'on a encore plus qu'en 2018, ce qu'on avait déjà, mais j'ai l'impression qu'on a encore plus ce côté-là, cette force collective. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une ou deux individualités, comme on peut avoir notamment Mbappé, mais qu'on a un groupe avec des joueurs qui font corps ensemble, qui jouent pas mal dans le système de Didier Deschamps. Et donc ouais, je suis plus rassuré, moi, qu'après la liste des blessures qu'on avait eues, je trouve qu'effectivement ce groupe France a l'air de bien vivre et a l'air de bien avancer vers son objectif.
Et puis comme le disait Jacques dans la première interview hein, qu'on a rediffusée, hein, qu'on a passée, que l'automate nous a fait partir tout seul, finalement l'ambiance est bonne aussi au Qatar, c'est une belle Coupe du Monde. Quoi.
Mais moi franchement j'avais pas de doute. Tu sais, on avait fait ensemble un avant Coupe du Monde ici et on avait parlé de tout ce côté. J'avais poussé un peu mon coup de gueule sur tout ce côté de boycott, etc. Et j'étais venu sur le fait que ce boycott-là, on ne l'avait pas fait à Sochi, on ne l'avait pas fait pour les Jeux Olympiques en Chine, que c'était très, 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 très tiré sur le Qatar. Je trouve qu'on tire beaucoup sur le Qatar. Alors, il y a des choses, hein, moi, je n'occulte rien, mais en fait, on voit que ça s'organise bien, que c'est bien. Jacques Vendroux nous dit que ça se passe bien sur place. On voit les audiences. Enfin, oui. On nous parlait d'un...
Ah bah les audiences,
nous,
voilà.
On nous parlait d'un cataclysme, que tout le monde allait boycotter, là, que...
Voilà. Sans commentaire.
Et comme j'ai dit, en fait, ceux qui boycottent, c'est ceux qui ne regardent pas la Coupe du Monde. Voilà. Donc, bon, voilà, il ne les regardait pas avant, il ne les regarde pas maintenant.
Julien, tout ce que vient de dire Jacques Vendroux à travers ces deux interviews.
Avant de revenir sur ce qu'a dit Jacques Vendroux, pour les audiences, je pense que c'est assez compliqué de faire des comparaisons, parce que d'une part, ce n'est pas pendant la même période. Là, bon, il y a du monde au travail, on est en novembre, par rapport à l'été.
Justement, quand il y a 12 millions.
14 millions et demi.
Oui, mais 12 ou 14 millions, c'est quand même pas rien.
Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, on a comparé ce qui se passe en Allemagne, on parle d'un boycott assez important en Allemagne, etc. Et c'est pas forcément vrai parce que finalement ils ont eu un match qui était en pleine journée, pendant le travail, alors qu'à l'époque leur premier match avait lieu en plein week-end, etc. Donc en fait les comparaisons sont assez difficiles à faire.
Donc on verra mercredi.
On verra certainement mercredi. Ouais. Après, bon, je pense que de manière globale, les gens qui aiment le football continuent à suivre la Coupe du Monde. Et puis, on ne s'est pas offusqué quand les handballeurs sont allés jouer dans des pays du Moyen-Orient. On ne s'est pas offusqué quand la Formule 1 y va. Enfin, donc, parce que c'est le football, ça fait forcément un peu plus de remue-ménage. Mais la réalité, c'est que bon, les passionnés suivront toujours. Hein.
Très bien. Puis, on va saluer Valentin qui vient d'arriver. Ça va, Valentin?
Ça va, Philippe.
Bon, la Coupe du Monde est partie. Tu veux nous en parler aussi un peu. Alors, après, donc... Jacques Vendroux, on va retrouver dans quelques minutes Noël Tosi hein, qui va nous accompagner à travers ses commentaires. Donc, messieurs, les deux matchs de l'équipe de France hein, qu'on a eu l'occasion de vivre sur Montpellier FM, 4-1 face à l'Australie et puis 2-1 contre le Danemark, le contrat, il est rempli.
Bah, comme à chaque fois avec Didier Deschamps, hein, à chaque premier tour, on gagne les deux premiers matchs, ce qui permet, et c'est super important, je pense, pour cette compétition-là, d'avoir un troisième match où on peut faire tourner en partie l'effectif. Parce qu'on a justement des peurs sur une blessure au milieu de terrain, sur certains postes, l'arrière-gauche, etc. Donc là, c'est parfait. On aura l'occasion de préparer ce huitième un peu plus tranquillement. Et puis, en concernant un peu plus de joueurs, On a fait de bonnes prestations surtout. On a Ousmane Dembélé qui est quand même étincelant, qui a, oui. défensivement surtout, c'est à souligner quand même, a fait un super énorme travail. Franchement, on l'a rarement vu comme ça. Et on a l'impression qu'il prend même du plaisir à énorme. Le faire. Donc c'est ça qui est intéressant. Et comme l'a dit tout à l'heure Eric, le groupe a l'air de bien vivre. On le dit assez souvent, oui. mais pas forcément à juste titre.
Je suis d'accord.
La Belgique, par exemple, on commence à voir un peu les tensions qu'il peut y avoir dans leur groupe.
Ouais.
La France, au contraire, on voit une joie de vivre. On voit quand même des mecs qui sont concernés, qui ont envie de faire les choses ensemble. Donc, c'est très positif à ce niveau-là.
Voilà. Est-ce que Noël Tosi nous entend au téléphone? Noël, bonjour.
Je vous entends. Je vous entends, les gars.
Bon, bonsoir, ça va, Noël? Tout va bien? Tout va bien?
Tout va bien.
Bonsoir, Noël.
Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord bonsoir. Avec nos propos et avec les propos qu'on a entendus de Jacques Vendroux d'Europe 1 au micro de Stéphane?
Jacques Vendroux, il a quand même la température. Il est ami avec tous les dirigeants de l'équipe de France, avec Deschamps, avec les joueurs. Donc, quand il nous distille cette information, il faut la prendre et être enthousiaste parce que ça veut dire qu'on est dans de bonnes dispositions. J'ai entendu une remarque qu'il a faite qui est fort judicieuse.
Oui.
Il a dit, moi, le match du 30 novembre,
oui.
Tunisie-France, je ne zapperai pas et je ferai jouer à peu près l'équipe type avec quelques gars qui vont se reposer.
Oui.
C'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée. Je pense qu'il a peut-être raison et c'est peut-être ce que Deschamps va faire.
Oui. Alors, Noël, on se rappelle que samedi, dans notre direct, hein, Henri-Émile nous disait que c'était pas une obligation. Bon, c'était une tradition, mais c'était pas une obligation. Hein.
Oui, dans la tradition, on a toujours fait tourner.
Bien sûr,
en 2000, le maire avait changé carrément 11 joueurs. Mmh. Là, pour le France de Danemark 2018, je crois qu'elle avait 7 ou 8. Donc oui, je pense qu'il va faire tourner en grande partie pour qu'on ait la fraîcheur. Encore faut-il savoir qu'on... Parce que ce n'est pas la même chose si on joue contre l'Argentine, le Mexique ou l'Arabie Saoudite. Parce qu'aujourd'hui, les trois peuvent être... qualifiés pour jouer contre nous. Je dirais que le plus mauvais tirage, je vais peut-être vous étonner, ça serait l'Arabie Saoudite.
Ah bon ?
Pourquoi ? Parce que, d'abord, ils ont un entraîneur d'exception qui s'appelle Hervé Renard.
Ouais.
Ils ont un match qui va être qualificatif bientôt, là, contre le Mexique. Mais apparemment, les équipes sud-américaines leur conviennent bien. C'est les équipes européennes qui ne leur conviennent pas. Mais quand même, un match France-Arabie Saoudite, il faudra faire très, très attention. Voilà.
D'accord. Eric ?
Oui, sur le côté, déjà Noël, je voudrais rendre à César ce qui est à César sur notre dernière émission. Vous avez souligné le côté de l'Arabie Saoudite et du fait qu'il fallait faire attention. Donc voilà, et bravo. Et moi, je vais dans votre sens sur le côté d'Hervé Renard. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément au niveau à la fois meneur d'homme, à la fois coach mental, puisque c'est mon métier, mais aussi au niveau de quelque chose qu'on met pas assez en avant sur Hervé Renard. On parle toujours de lui sur le côté mental et le gars qui s'est poussé des coups de gueule, et on l'a vu encore sur le côté de la mi-temps du match.
On a vu des belles images dans les vestiaires.
Mais il a un côté tactique aussi et un côté tacticien qui est très très bon. Et moi j'aimerais bien avoir ce côté, déjà parce que ça voudra dire que l'Arabie Saoudite a fini deuxième de son groupe et s'est qualifié. Mais un match France-Arabie Saoudite, effectivement, moi, ça m'intéresserait bien. Et effectivement, comme vous le dites, je ne suis pas sûr que ça sera super facile. Après, on a l'équipe pour, mais ça sera, je pense, une belle confrontation.
Julien ?
Oui, l'Arabie Saoudite, on en a bien parlé. C'est vrai qu'Hervé Renard a préparé depuis longtemps ce mondial. C'est vrai qu'il en a marre d'être réduit à ce côté gueulard. Lui-même le dit. Et de toute façon, on n'arrive pas à mener une équipe à des grandes choses juste en gueulant. Hein. Il y a toujours une approche tactique, technique, etc. Donc, je suis très satisfait de ce qu'il fait et je suis heureux pour lui parce que je pense qu'il mériterait d'avoir un poste un peu plus important.
Ouais, je suis d'accord.
Ouais. Valentin,
alors, concernant le match de l'Arabie Saoudite contre l'Argentine, le plan tactique que Renard avait mis en jeu était le suivant. On l'a vu même dans le match contre le Mexique que l'Argentine n'avait pas de joueur de rupture. Qu'est-ce que ça veut dire un joueur de rupture ? Un joueur de rupture, c'est un joueur comme Dembélé, comme Mbappé, c'est des garçons qui vont vite vers l'avant et qu'on peut jouer dans les espaces, comme Vinicius par exemple au Brésil. Et ils n'en ont pas des joueurs comme ça. Ils ont des joueurs comme... j'ai mangé notre ancien parisien à des gauches. C'est pas grave, ça va me revenir. Ils ont des joueurs qui sont de bons techniciens, mais qui ne sont pas forcément des transverseurs de défense et des casseurs de ligne. Donc, ils n'ont qu'une façon, une seule, pour jouer, c'est la conservation de balle et se remettre à un exploit personnel dans les 20 derniers mètres. On l'a vu avec... alors, si eux, ils ont une dépendance avec Messi, ça s'est vu quand, dans le match du Mexique, parce que sans Messi, je ne vois pas comment ils auraient pu gagner le match.
Exactement.
Et donc, quand Hervé Renard a regardé tout ça en vidéo, il s'est aperçu que s'il jouait dans ses 30 derniers mètres, il allait se faire casser en deux par l'Argentine. Donc, il a remonté le bloc équipe et la ligne défensive se trouvait à 40 mètres. Et ils n'ont jamais trouvé, et chaque fois quand ils ont trouvé, c'était hors jeu. Comme ils n'ont pas de vitesse, ils sont obligés d'anticiper la profondeur et en anticipant la profondeur, on se met souvent hors jeu. Donc, voilà ce qu'il a fait. Oui. Dans le deuxième match, ça a été plus problématique parce que c'était une équipe qui un peu avait les mêmes caractéristiques que les siennes. Que la sienne, pardon. Et ça a été un grand combat physique. Et c'était qui allait marquer le premier but. La Pologne a marqué le premier but. Mais là, bon, ben, contre le Mexique, il va retrouver un petit peu une équipe où il n'y a pas trop de joueurs de rupture. Il peut refaire le coup de l'Argentine. Et moi, je mets une petite pièce pour l'Arabie Saoudite, deuxième de la poule. Alors, est-ce que s'ils font match nul, il pourrait être qualifié. Oui, aussi, en tant que meilleur troisième, je crois.
Ouais. Oui, alors on va en parler. On va disséquer les groupes. Et le joueur recherché, c'était Di Maria, naturellement.
Di Maria, voilà
bien sûr.
Et puis un petit coup de cœur pour le joueur de l'Arabie Saoudite qui a marqué un superbe but, là, Al-Douarassi, qui est vraiment... moi, j'ai vu ce joueur. Je ne l'avais pas vu jouer. Et effectivement, j'ai trouvé que vraiment, c'était un joueur très, 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 très intéressant.
Alors, Noël, donc, l'équipe de France, elle a 6 points. C'est la seule équipe avec le Brésil ce soir à être déjà qualifiée pour donc, les 8e de finale. C'est l'équipe qui a fait la meilleure impression parmi les gros sur ce premier tour, pour vous, pour l'instant. Bien qu'il faille méfier des impressions pour la suite.
Non,
c'est l'équipe qui a paru la plus complète. Hein.
Oui, avec l'Espagne.
Oui.
Avec l'Espagne.
Oui.
Je pense que l'Espagne a marqué un grand coup. Ils ont impressionné tout le monde. On a retrouvé l'Espagne de 2010, c'est ce qui me fait un petit peu peur parce qu'on pourrait les retrouver, je crois, en quart de finale, quelque chose comme ça, ou en demi. Mais en tout cas, c'est vrai que cette Espagne-là, elle est assez exceptionnelle. Ils ont une façon de. Alors, c'est football espagnol, hein. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, la conservation de balles, jouer sans avant-centre. Bon, il ne faut pas les laisser jouer. Hein. On a vu que les Allemands ont fait un bon truc, puisqu'ils sont allés les chercher.
Ils reviennent de loin, quand même, les Allemands.
Vous avez vu, monsieur Tosi aussi.
C'est le premier but.
Ouais. Vous avez vu aussi. Monsieur Tosi, je voulais vous interpeller sur une chose sur l'Espagne. Effectivement, on a l'habitude de leur jeu à l'espagnol, effectivement,
en passe, en
conservation, effectivement, sans attaquant. Mais moi, ce qui m'a impressionné, et s'ils font ça pendant toute la Coupe du Monde, je pense qu'ils peuvent effectivement faire mal, c'est leur pressing à la perte du ballon qui n'était pas avant. C'était pas une équipe qui faisait beaucoup de pressing le jeu espagnol, et là il y a un pressing à la perte de balle qui est assez intéressant pour pouvoir effectivement faire une reprise en première perte de balle et de pouvoir essayer de repartir vers l'avant.
Ah oui, tout à fait, vous avez raison, et c'est la différence par rapport à l'Espagne de 2010. C'est-à-dire que l'Espagne de 2010 conservait essentiellement le ballon.
Totalement.
Et là, celle-là, d'Espagne, va chercher l'adversaire dès la perte du ballon.
Exactement.
Un peu comme Guardiola fait à Manchester City, c'est-à-dire que les 5 secondes qui succèdent la perte du ballon sont les 5 secondes les plus importantes au monde pour les footballeurs et d'Espagne et de Manchester City. Et j'avoue que moi, j'ai été vraiment impressionné. J'espère qu'ils seront éliminés avant de rencontrer la France. Parce que ce n'est pas une équipe qui nous conviendrait très bien, ça. Voilà.
Bon, alors Noël, qui va nous accompagner dans notre groupe, hein? On va rappeler que le Danemark et la Tunisie ont fait 0-0, qu'ensuite la Tunisie a déjoué devant l'Australie 1-0. On a quand même été déçus par cette équipe danoise, hein, qui était loin de l'équipe séduisante et emballante de l'Euro 2021.
Alors, on va reprendre les choses et on va refaire le match.
Non, on va pas refaire. Ouais, ouais.
et France-Danemark, 1-1, ils ont deux occasions extraordinaires, une qui est sortie par Loris, je ne sais pas comment, et une qui passe à quelques centimètres du poteau. Et si le Danemark marque à ce moment-là, est-ce qu'on a la même vision du match? Non. Moi, je pense qu'ils vont, disposer de l'Australie.
Moi aussi, je pense
que ça sera Tunisie-Danemark.
D'accord. Donc, pour l'instant, c'est la
France-Danemark.
Oui. Donc, pour l'instant, c'est la France 6 points devant l'Australie 3 points. Et il y a le Danemark et la Tunisie qui ont 1 point chacune et qui sont à égalité parce qu'il y a moins 1 au Golavrage aussi. Hein. Mais enfin, on va attendre les deux derniers matchs. Donc, vous pensez France-Danemark quand même, hein?
Oui, France-Danemark, oui. Je pense qu'ils vont se reprendre et ils vont le faire.
Plutôt d'accord, je pense que le Danemark a été plutôt décevant sur le premier match. Contre la France, c'est vrai qu'il
y a la France en face. Aussi, et puis, on n'a pas vu l'équipe aussi flamboyante qu'on avait vu.
Mais ils se créent quelques occasions et c'est vrai que ça peut tout changer. Il faut se méfier quand même d'eux. Je pense qu'ils seront présents sur le troisième match.
Alors, Philippe, si je peux me permettre.
Oui, bien sûr.
Un match qui va être... explosif. C'est le mardi 29 novembre, Iran-États-Unis.
Oui, mais on va en parler, Noël. On va disséquer tous les groupes. N'ayez pas peur, on va disséquer tous les groupes. Alors, justement, on y vient. On commence par le groupe A, en dehors de l'équipe de France. Donc, on est bien d'accord, l'équipe de France, ça sera, d'après vous, France-Danemark, donc qui devrait sortir de la poule. On va rappeler dans le groupe EA, donc, puisqu'on avait parlé la semaine dernière, hein, l'Équateur avait commencé son tournoi en gagnant 2-0 devant le Qatar. On a eu donc les Pays-Bas qui avaient battu le Sénégal 2-0. Et puis, cette semaine, le Sénégal a battu le Qatar 3-1. Et puis, match nul entre le Pays-Bas et l'Équateur. Donc, pour l'instant, l'Équateur est en tête avec les Pays-Bas, 4 points, plus 2 au goal average pour les deux équipes. Troisième, le Sénégal, 3 points. Quatrième, le Qatar, 0 points. Le Qatar est éliminé. Par contre, ça nous laisse un alléchant Sénégal-Équateur pour accompagner les Pays-Bas. Hein.
Deux styles complètement différents. Mais je crois au Sénégal. Moi, je crois au Sénégal. Je pense que c'est une équipe qui mériterait les équipes africaines. On en reviendra, je pense, après avec le Maroc. Ça serait bien qu'on ait quand même quelques équipes africaines dans les huitièmes, dans les quarts de finale. Ça, c'est beau pour le football en Afrique. Équateur-Sénégal.
C'est un beau match.
Mais je pense que le Sénégal va le faire. Je pense que tout le peuple sénégalais va être derrière son équipe. Ils vont tout faire pour aller chercher la victoire. Et ils sont tout à fait capables, avec l'équipe qu'ils ont, de battre l'Équateur, qui n'est pas... Bon, en sachant que Valencia est blessé quand même.
Non, mais qui a quand même tenu les Pays-Bas en échec. Les Pays-Bas qui n'ont pas fait une grosse impression et qui ont quand même battu donc, le Sénégal. On en parlait la semaine dernière, 2-0, sur deux grosses erreurs de leur gardien Mendy, alors que finalement, les Sénégalais avaient fait jeu égal avec les Pays-Bas.
Hein. Ouais, c'est vrai, mais bon, les Pays-Bas, c'est une équipe un peu bancale, je dirais. Elle n'est jamais très bonne, c'est un peu comme la Belgique. On attend toujours à ce qu'elle survole les débats, elle ne les survole pas.
Ouais.
Et puis finalement, elle est toujours là, elle arrive toujours dans le dernier carré ou en quart.
C'est ça.
Moi, ce n'est pas mon équipe préférée, mais je sais qu'elle est très très dure à jouer.
Mais Memphis est hyper important dans leur dispositif et il était absent sur le premier match. Enfin, en tout cas, il est rentré en jeu et il n'est pas dans la meilleure de ses formes. Donc, c'est vrai qu'ils ont très bien joué au ballon avec un dispositif assez particulier. Et bon, là, ils ne montrent pas leur meilleur visage, mais malgré tout, ils ont fait ce qu'il fallait, en tout cas le minimum. Et puis, il reste le Qatar à jouer, donc ils ont un gros avantage. Et pour revenir sur Sénégal-Équateur, l'Équateur a l'avantage puisqu'ils sont devant pour l'instant, avec un match nul, ils passent. Mais c'est vrai que je vois aussi le Sénégal... faire un gros match.
Et ça, c'est pas neutre. Hein. Le côté de... moi aussi, j'aimerais... après, j'aime beaucoup l'Équateur, mais j'aimerais que le Sénégal passe. Mais c'est pas neutre d'avoir l'avantage de pouvoir gérer le match à un moment donné dans les 20 dernières minutes.
C'est pas toujours un avantage, parce que dans la mentalité de l'approche d'un match, quand on a l'obligation de gagner, on a d'autres intentions. Ça veut dire qu'ils vont presser plus, ils vont attaquer plus, ils vont jouer plus directement... Ils vont mettre plus d'engagement, etc. Et je pense que le Sénégal va battre l'Équateur pour cette raison, parce qu'ils auront plus d'envie et plus... si l'Équateur se contente de jouer le match nul, ils ont perdu le match avant de le commencer.
Ah, bien sûr. Non, moi, je parlais dans les 20 dernières minutes. Si au bout d'un moment, il y a 0-0 dans les 20 dernières minutes, c'est un avantage pour l'Équateur de pouvoir jouer le match nul et de pouvoir se qualifier. Ce que n'a pas le Sénégal.
D'où l'intérêt de prendre... le taureau par les cornes dans ce jeu, d'aller au pressing et d'aller marquer le plus vite possible.
Déjà, les 20 premières minutes vont être essentielles.
Ouais. Donc ça, Pays-Bas-Qatar et puis Équateur-Sénégal, c'est demain, Noël. Hein. C'est demain. Hein.
C'est ça, ouais.
Voilà. Mmh. Alors tiens, je vais demander aussi l'opinion de notre ami Valentin, qui donc, nous a rejoint dans nos studios. Ça va, Valentin ?
Ça va.
Tu suis malgré les matchs, malgré tes nombreuses autres occupations journalistiques ?
Je suis, oui. Hein ?
Bon, qu'est-ce que tu penses de ce qu'on vient de dire, de ce début donc, de Coupe du Monde ?
Bah écoutez, on s'attendait à une Coupe du Monde un petit peu particulière parce que c'est une période qu'on a
elle
pas
est
l'habitude.
Particulière.
Elle est particulière quand même par le contexte,
le mois de novembre,
le boycott qu'il y a eu, les différentes blessures. Mais pour venir sur le Sénégal, si le Sénégal fait le même pressing qu'ils ont fait pendant 80 minutes face aux Pays-Bas contre l'Équateur, je pense que l'Équateur va avoir très très du mal à sortir déjà, à gagner le match, parce que le Sénégal, c'est vrai que face aux Pays-Bas, moi franchement j'ai regardé le match, je voyais le Sénégal sur une action mettre un but.
Parce
qu'ils ont été vraiment dans l'impact.
Ils ont fait jeu égal avec les Pays-Bas.
C'est ça, dans le pressing, ils étaient même au-dessus, d'un point de vue physique, ils étaient clairement au-dessus. Et quand effectivement Memphis est rentré, c'est là où ça a changé beaucoup de choses. Memphis, on sait très bien, il se balade dans les défenses, il fait des appels dans le dos, c'est insupportable à défendre. Donc le Sénégal, j'espère vraiment qu'ils vont réussir à faire une victoire pour se qualifier en 8e de finale.
Alors, Noël, justement, bon, c'est pas nouveau dans le foot, mais c'est vrai que le coaching, finalement, il est très important sur ce mondial. On voit beaucoup de joueurs qui rentrent, qui sont décisifs.
Mais le coaching est très important en général.
Oui,
on minimise souvent le rôle d'un entraîneur, mais c'est l'entraîneur. Vous savez, je vais vous prendre un exemple.
Oui.
Un entraîneur qui dit que son équipe n'a pas l'état d'esprit, c'est qu'il ne fait pas son boulot. Parce que c'est lui qui doit donner l'état d'esprit à son équipe.
Oui,
je veux dire, un entraîneur aussi doit connaître parfaitement. Regardez, on prend Deschamps. Deschamps, c'est le champion du monde de la performance collective. En 2016, quand il nous met Sissoko côté droit, alors que Sissoko est un joueur d'axe, on dit mais il fait n'importe quoi. Et quand on voit la finale que Sissoko a fait contre le Portugal, rayonné sur le match, on se dit mais il a fait un coup de génie. Quand il met Matuidi sur le couloir gauche pour renforcer défensivement l'équipe de France, on se dit bon, il y a meilleur que Matuidi, mais non. Le collectif, c'est autre chose. Et on en revient à ça parce que des fois, comme je le disais l'autre jour, c'est pas toujours les meilleurs techniciens qui font les meilleures équipes. Il faut de tout. Et là, il nous a fait un coup d'exception avec Griezmann, puisque il est en train de révéler Griezmann au monde entier comme un numéro 10 et comme peut-être le digne successeur de Platini. Griezmann, il sait tout faire dans ce mondial. Il donne tous les coups de pied arrêtés, il donne des passes décisives, il se bat comme un lion, il influence le jeu. Et on a un meneur de jeu à l'ancienne, un numéro 10 vintage.
Ouais.
Et
ouais,
nous,
ouais,
la France, on l'a. Et il n'y a que l'Argentine qui a un deuxième vintage avec Messi. Il n'y a pas beaucoup d'équipes au monde qui ont ce joueur-là. Et nous, on a Griezmann. C'est magnifique. Et donc, le coaching est quelque chose d'hyper important. Un coach, c'est 50-60% d'une équipe. Il n'y a pas que les joueurs. Il n'y a pas que les joueurs et les remplacements. Alors là, je vais dire quelque chose qui est un peu plus personnel. Je pense que personne, à la place d'un coach, peut faire un remplacement. Parce qu'il a son équipe en tête, il a conçu son match, il sait ce qu'il va faire et il faut le laisser faire. Mmh. Et ben voilà, et le coach, on ne peut pas minimiser aujourd'hui en 2022 l'importance d'un coach dans une équipe.
Oui, et puis encore plus que maintenant, c'est passé avec 5 remplaçants. Hein.
Oh, c'est bien.
Oui.
Ah, c'est bien. Ouais. Mais vous avez vu, ça fait un paquet d'arrêts de jeu.
Eh ben oui.
Non, justement, les 5 remplaçants sont essentiels puisque ça permet justement au coach de réajuster beaucoup plus tôt dans le match que dans d'autres Coupes du Monde. Et pour en venir sur l'équipe de France et Deschamps, ce qui est assez marrant, c'est qu'on dit souvent que les entraîneurs doivent s'adapter aux évolutions du football, etc. Et on retrouve en équipe de France un numéro 10 en Antoine Griezmann, un attaquant à l'ancienne avec Giroud, des ailiers de débordement qui sont là pour faire la différence et centrer. Donc, on retrouve finalement un jeu un peu à l'ancienne et qui n'est pas déplaisant, et qui est au contraire même plutôt attrayant.
Plutôt attrayant.
Mmh. Oui, c'est vrai. C'est une très belle remarque.
Ouais. Bon, Noël, on marque un petit break, une petite pause musicale. Vous restez avec nous.
Ça va.
On va aborder le groupe B, justement, ce fameux match USA-Iran. Hein, donc, on va l'aborder. Alors, on va écouter une petite pause musicale. C'est un choix personnel d'un de nos invités qui va nous présenter un petit peu le pourquoi de son choix.
Ouais, en fait,
je veux bien écouter ça.
Ouais, hein,
on va souffler un peu.
Voilà, je voulais donner beaucoup de force à un artiste que je connais et qui lance son album et qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. Et puis, c'est un homme de grand cœur. Donc, on va écouter T2I avec son nouveau titre, Ça fout quoi.
C'est parti.
Calmez-vous. Et vous, mon ami, de quoi tu parles?
Mode S, comme dossier. Très chauffant est le dossier. Audi RS6 à 2,50 sur la A86. Le frérot Jordan m'attend même quand je suis en retard, il en fait pas des caisses. On part de choisir le roi, on va chez les bourgeois de la rue Princesse. Juste après on part au parc des princes. C'est chez moi, pas besoin de GPS. Pour le débrief, demande à Driss. Et c'était qu'une fraude et pas tu glisses. Paris show game, Paris forever, ici c'est Paris. Titi authentique, Otto, Eric, on fait équipe. Qu'est-ce que ça fout là? Ça fout quoi? Qu'est-ce que ça fout? Qu'est-ce que ça fout là? Ça fout quoi? Qu'est-ce que ça fout? Petite journée en vue, pas le temps, je te laisse en vue. Qu'est-ce que ça fout là? Ça fout quoi? Qu'est-ce que ça fout?
C'est ton fake, je le sais. Ça fait un bail. Je demande un monde dit tout sur toi.
Ça fait un bail.
Pour de bon, je t'ai dit bye bye.
Ça fait un bail.
J'ai des plans, je suis refait.
Ça fait un bail.
Non, je n'ai pas la boco, j'ai la flemme d'écrire quand je te fais des vocaux. Aucun duel, je te termine en 2-2. Je suis sur l'eau comme la mosquée Hassan 2. Quoi? T'as tout gâché? T'as spoilé, le délire est cassé. Mais faut garder le sourire comme Jamel ou l'acteur préféré des Français.
Minimum, minimum, tu ne fais pas. Phénomène, phénomène, tu ne l'aimes pas. Sur la scène, tu vas mais pas du coup. T'as le seum, mais de courtois. Je fais la bulle, beau temps comme ma FIFA. Tout est beau sur les photos, disait Ketama. Secret, Emily d'Amsterdam. Il faut Darka, pas vrai Rahma. Mon PEP voit rien, mais je suis bandoctriné comme mes polytechniciens. On a tout l'arsenal, la frappe vient de loin comme un Michael Essien. Mauvais casting comme Kerrer. Magnifique story comme Carrard. Lamborghini, elle est full black. De la détopie comme Kim Kardashian.
Qu'est-ce que ça fout là? Ça fout quoi? Qu'est-ce que ça fout? Qu'est-ce que ça fout là? Ça fout quoi? Qu'est-ce que ça fout? Petite journée en vue, pas le temps, je te laisse en vue. Qu'est-ce que ça fout là? Ça fout quoi? Qu'est-ce que ça fout?
C'est ton fake, je le sais.
Ça fait un bail.
Je demande un monde, dis tout sur toi.
Ça fait un bail.
Pour de bon, je t'ai dit bye bye.
Ça fait un bail.
J'ai des plans, je suis refait.
Ça fait un bail.
C'est ton fake, je le sais.
Ça fait un bail.
Je demande un monde, dis tout sur toi.
Ça fait un bail.
Bye bye.
Ça fait un bail.
J'ai des plans, je suis refait.
Ça fait un bail.
Mon Paris FM.
Voilà, vous êtes donc toujours sur Mon Paris FM, émission naturellement Mon Paris Sport, hein, en configuration mondiale. Noël, avant de revenir sur le point sur ces groupes, hein, à une journée de la fin des matchs du premier tour, il y a deux réflexions quand même, et Jacques Vendroux l'avait donc abordé dans son interview avec Stéphane à Doha. D'abord qu'il y a très peu de cartons, et surtout de cartons rouges, hein, il a fallu attendre, je crois, le 17e match pour avoir un carton rouge avec le gardien gallois.
Oui, puis hein, récemment, là, oui, je pense oui. aussi pour le, je crois que c'est l'entraîneur de la Corée du Sud qui a fait un carton rouge.
Oui, c'est l'entraîneur cet après-midi,
oui. Oui, c'est vrai que c'est deux seuls, mais bon, oui. C'est assez correct malgré l'engagement. Ce qui souligne aussi la qualité de l'arbitrage.
Voilà, que... alors justement, c'est la VAR qui fait ça?
Écoute, la VAR, il y a du pour et du contre. Ah, quand on refuse un but au défenseur allemand parce qu'il y a le bout du pied qui dépasse, encore faut-il prouver que le bout du pied dépasse, parce que quand ils prennent la photo de la VAR, le ballon est déjà parti depuis un mètre. Donc à partir de là, il y a des moments où la VAR, c'est embêtant. C'est embêtant parce que pour un centimètre, pour un doigt de pied... pour un demi-bras, c'est incompréhensible, quoi. Mais bon, tant qu'à faire, tant qu'elle est pour tout le monde de la même façon, on va continuer comme ça. Après, c'est vrai que ça minimise aussi les performances des petites équipes. On va se retrouver avant, une petite équipe pouvait marquer un but hors jeu, on ne le voyait pas. Là, ça va se voir de suite. Et je pense qu'au bout du compte, à moins qu'il y ait quand même quelques surprises dans les huitièmes de finale et dans les quarts de finale, on devrait se trouver avec un carré de Cador, quoi.
Mais les gros, quoi, ce qu'on appelle les gros, quoi, traditionnellement.
Oui, les
bien
gros.
Bien que parfois, il y a des équipes surprises hein, dans un carré d'as, hein, sur le mondial. On se rappelle la Suède et la Bulgarie en 94. La Croatie, qui n'était pas forcément attendue en finale en 2018. Hein, il y a quelques, parfois, ou la Corée du Sud et puis la Turquie sur le mondial 2002.
Ouais. Et alors aujourd'hui, j'ai vu un match à la télévision, je ne sais pas si vous l'avez vu, vous, de votre côté, Corée du Sud-Ghana. absolument fabuleux.
Oui, ouais, bah on va en parler
autant,
aussi.
J'ai vu un très grand match qui était Allemagne-Espagne hier soir, où c'était vrai premier match de très très haut niveau qu'on avait à cette Coupe du Monde.
Je suis d'accord.
Là, cet après-midi, je crois que les Coréens se sont créés en 10 minutes d'arrêt de jeu, 6 ou 7 occasions de but. Ils ont été fabuleux. Et c'est pour ça que peut-être dans ce groupe-là, mais peut-être on va y arriver après.
On va y arriver, Noël. Ouais. Hein. On va d'abord revenir, comme promis, donc, au groupe B, hein, le groupe de l'Angleterre. L'Angleterre qui avait commencé, donc, on s'en rappelle, hein, en fanfare, en écrasant l'Iran 6-2, alors que les États-Unis et le Pays de Galles avaient fait nul un partout. Et puis, cette semaine, on a eu Angleterre-États-Unis 0-0. Bon, pas un match terrible. Hein. Et puis, l'Iran qui a battu donc, le Pays de Galles 2-0. Donc, l'Iran qui, pour l'instant, est deuxième à 3 points, hein, derrière l'Angleterre 4 points, et qui peut peut-être aller chercher un 8e de finale, puisque les États-Unis sont 3e avec 2 points et le Pays de Galles 4e dernier 1 point, et que donc mardi il y aura Pays de Galles Angleterre et ce fameux match Iran États-Unis qui avait déjà eu lieu en 98, hein, et qui
ça rappelle bien.
Donc ça avait dépassé, on s'en rappelle, le cadre du sport. L'Iran peut le faire, ils peuvent être en 8e.
Oui, parce que l'équipe des États-Unis n'est pas si extraordinaire que ça, même s'ils se battent bien, ils courent beaucoup. On a vu un match en Angleterre et États-Unis qui n'était pas de très très haut niveau.
Non.
C'est une équipe qui peut. Mais l'Iran a, je pense, a d'autres objectifs. C'est-à-dire que quand on voit, ils travaillent pour tout un pays. L'image de tout un pays quand ils refusent de chanter l'hymne national en mettant la main sur la bouche. Je trouve que c'est tellement une belle image par rapport à tout ce qui se passe là-bas au pays qu'on aimerait qu'ils aillent plus loin. On aimerait qu'ils aillent plus loin parce que c'est vraiment... On dit que la politique, il n'y a pas de politique dans le sport. Dans des matchs comme ça, ce n'est pas toujours vrai. Vraiment, on aimerait que cette équipe-là puisse encore passer ce message longtemps. Et puis, c'est une belle équipe.
Ils jouent bien
quand
au ballon.
Quand ils ont gagné le Pays de Galles, ils ont bien fait, ils ont fait le job, ils étaient heureux de faire ça. C'est pas gagné pour les États-Unis, c'est pas gagné.
Voilà. Oui, parce que Hatim nous parlait du retentissement qu'a vu la victoire donc, du Maroc là-bas au Maroc, mais on peut imaginer si l'Iran se qualifie pour les huitièmes, ce que ça va être.
Et c'est pas une impossibilité.
Moi je pense que ça sera
Angleterre, Iran. Angleterre premier et Iran deuxième.
D'accord.
Je pense sincèrement qu'ils vont se qualifier. Ouais.
Moi aussi je pense et j'espère. Moi je pense et j'espère parce que franchement l'Iran joue très très bien au ballon. Je l'avais dit sur la première émission. Aussi. Tout le monde m'avait dit voilà, mais j'avais dit ils avaient dans la tête cette problématique. Donc sur le premier match, effectivement bon voilà, ils passent à travers. Mais pour les avoir vus jouer avant la Coupe du Monde et dans des éliminatoires ou autres, c'est des joueurs, ils ont un Taremi qui joue à Porto, qui est un joueur excellent, mais vraiment excellent. Ouais. Ils ont d'autres joueurs devant. Ils ont une défense qui, de temps en temps, est un petit peu plus compliquée, mais ils ont un bon milieu de terrain. Et moi, j'espère qu'ils vont passer et gagner pour passer ce tour.
Ouais, Julien.
Oui, l'Iran, c'est une équipe qui a de la qualité, hein, c'est clair. Oui. On les sous-estime peut-être un peu parce qu'on les connaît pas assez, mais c'est une équipe qui peut jouer un beau football. Et bon, c'est vrai qu'Iran, États-Unis, hein, c'est quelque chose. On dit que le sport n'est pas politique, le sport est politique, le football encore plus, et la Coupe du Monde, ça peut toucher des sommets de politique. Hein. Mais là, c'est vrai qu'on aurait pu penser opposition Iran-États-Unis. Là, l'Iran est plus en opposition contre son gouvernement, donc c'est pas le même impact.
En tout cas,
il y aura une tension quand même, mais qui sera différente.
En 98, ça avait été énorme. Hein.
On en avait parlé.
Hein.
Mais c'est vrai que dans l'idée, de toute façon, que l'Iran élimine les États-Unis, ça aura un impact, si c'est le cas. Mais c'est vrai que ça aurait pu être encore plus sous tension si les Iraniens n'étaient pas plutôt en proie aux problèmes qui se passent dans leur pays.
Valentin ?
C'est vrai que vu le contexte politique en Iran, c'est essentiel, je pense, pour les Iraniens de marquer le coup. Et en plus, comme l'a dit Noël aussi, de ne pas chanter l'hymne national. Mais j'aimerais revenir sur une équipe qui est présente dans ce groupe et qui est fort décevante, qui s'appelle le Pays de Galles.
Oui, oui, oui. Qui avait été demi-finaliste de l'Euro en 2016. Ouais. Ouais.
Et, ouais. Et depuis, on est sur une descente. Et là, ça prouve encore bien que le
Pays de Galles. C'est un pays de rugby avant tout.
Oui, ça se voit encore plus. Mais voilà. Malheureusement, maintenant, leur genre phare, ils préfèrent faire du golf qu'autre chose. Donc, c'est un peu compliqué.
Oui, en plus de ça, Valentin, le côté, c'est que sans lui, derrière, il n'y a rien. Bah, c'est ce que je disais à la première émission.
C'est un peu Mohamed Salah en Égypte.
C'est ça.
Il y a quelques joueurs qui sont bons. Des individualités qui sont bonnes, mais y a, on va pas se mentir, la tête d'affiche c'est Mohamed Salah. Et là c'est pareil, c'est Gareth Bale, et maintenant malheureusement Gareth Bale n'est plus le Gareth Bale de 2014, de Tottenham, du Real Madrid. Donc c'est dommage, mais j'espère que l'Iran va faire une belle performance. Et attention aux États-Unis, parce que face à l'Angleterre, franchement, moi je les voyais bien marquer et peut-être faire un 1-1 face à l'Angleterre. Malheureusement, ce match a été très décevant.
Mais juste pour revenir sur le Pays de Galles, il y a un joueur aussi comme Ramsey. Mais le problème, c'est que ni Ramsey ni Bale ne sont aujourd'hui au top niveau européen. Ils sont tous les deux un peu vieillissants, ou en tout cas moins concentrés sur le football.
C'est le Ramsey
et
Arsenal,
c'est vrai qu'en 2016, ils étaient quand même dans un état de forme complètement différent.
Ouais. En tout cas, c'est vrai, on parle de l'Arabie Saoudite, on parle de l'Iran, Noël. Ça ferait du bien au foot mondial si ces équipes étaient en huitième de finale. Hein.
Oui, puis ça ferait du bien que ces équipes-là aillent encore plus loin. Parce que,
après, ça va être plus compliqué.
Oui, aujourd'hui, à part l'Espagne, qui, à mon avis, est largement au-dessus de toutes les équipes que j'ai vues, l'Argentine, Messi dépendance, c'est moyen. L'Allemagne, c'est moyen. Je veux dire, l'Angleterre, comme il a souligné, ils ont failli perdre contre les États-Unis. Non, je pense qu'on aura des belles surprises. On aura peut-être un Sénégal, on aura peut-être une équipe d'Iran ou une équipe comme le Maroc qui vont arriver en demi-finale. Tout ça n'est pas impossible.
Allez, le fameux groupe C dont vous parliez avec l'Arabie Saoudite. Hein, on va rappeler qu'ils avaient créé la surprise, vous aviez dit Noël, en battant l'Argentine 2-1. Quoi qu'il arrive, ça sera un des gros, belles et bons résultats de ce mondial 2022 quand on fera le bilan. Mexique-Pologne 0-0. Et puis, cette semaine, effectivement, un décevant donc Argentine-Mexique, un 2-0 pour l'Argentine. Grâce essentiellement à Lionel Messi. Puis la Pologne qui a battu l'Arabie Saoudite 2-0. Donc comme vous l'aviez dit tout à l'heure, la Pologne en tête 4 points. L'Argentine deuxième 3 points. Avec donc un golavrage supérieur à l'Arabie Saoudite qui a aussi 3 points. Puisqu'il y a moins pour l'Arabie Saoudite. Et puis quatrième, le Mexique 1 point. Mathématiquement, le Mexique peut encore quand même se qualifier. Hein.
Oui, mais bon, je veux dire, c'est pas facile. Hein, parce qu'ils vont essayer de jouer pour gagner. Donc il va falloir qu'ils se jouent plus haut et ça va peut-être faire les affaires de l'équipe d'Argentine qui aura peut-être un peu plus d'espace. J'espère que d'ici là l'entraîneur de l'équipe d'Argentine aura compris qu'il va falloir mettre quelques joueurs qui aillent vers l'avant, parce que s'il joue bas, il n'a pas moyen de contre-attaquer. Donc c'est ce qu'il a fait un peu dans le dernier match. Et puis Messi, deux buts, une passe de but, qu'est-ce qu'on demande de plus
Mais enfin bon, ça peut... Comment expliquer que cette équipe n'y arrive plus depuis quelques années, ces talents fabuleux que sont les footballeurs argentins, c'est la Messi dépendance et c'est que ça.
Oui, c'est ça. Je pense que nos interlocuteurs sur le plateau sont d'accord avec moi. Je crois que si on enlève Messi à cette équipe, c'est peut-être une des équipes les plus faibles de la Coupe du Monde, hein, parce que vraiment, on n'a rien vu, ils nous ont rien montré. Alors, on me dit, il faut faire attention, ils vont se réveiller. Il serait temps quand même, il serait temps, parce que là, ils vont peut-être même ne pas passer, parce que si la Pologne bat l'Argentine, ils ne sont pas au deuxième tour.
Oui, mais le problème, c'est que ça fait quelques années, ça fait quelques Coupes du Monde où les Argentins passent à travers.
Et c'est bizarre, ils sont sur 36 matchs sans défaite avant le match contre l'Arabie Saoudite.
Mais justement, je pense que ça fait partie des choses qui ont laissé penser aux gens qu'ils étaient parmi les favoris. Moi, le premier, parce que c'est vrai qu'on a... Il y a deux facteurs pour moi. Ouais. C'est cette série d'invincibilité, cette victoire en Copa América, et le côté un peu émotionnel de Messi qui doit gagner, qui va emmener son pays, etc. Et je pense qu'on s'est tous un peu trompés, en tout cas ceux qui ont pensé ça, que l'Argentine a été l'une des favorites, parce que quand on regarde l'effectif réellement, il y a des bons joueurs, mais il y a quand même de meilleurs effectifs sur cette Coupe du Monde.
Ouais, mais Monsieur Tosi, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais moi j'ai l'impression de voir un peu ce qu'a vécu l'équipe d'Allemagne il y a quelques années, où elle était en fin de cycle, parce que vieillissante, on voit au niveau de l'Argentine, Otamendi, Di Maria, tous ces joueurs, Messi aussi, même si Messi à 37 ans, 38 ans, il sera peut-être encore un des meilleurs joueurs du monde. Mais on a une équipe qui, je pense, vieillit. Il y a une nouvelle génération qui prend pas encore le pouvoir et qui a des capacités. Et comme on l'a vu avec l'Allemagne, et puis au bout d'un moment, il va y avoir peut-être un creux, comme a eu l'Allemagne, pour après repartir avec une nouvelle génération. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Ben, je pense qu'il faudra gérer l'après-Messi, mais comme c'est un pays où il y a beaucoup de formations, il y a beaucoup de jeunes joueurs, ils auront peut-être un nouveau Messi dans les années à venir. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. C'est une équipe qui est en fin de cycle. Maintenant, si vous me demandez si je préfère tomber contre l'Argentine ou l'Arabie Saoudite, je vous dis sincèrement, je préfère jouer contre l'Argentine en huitième de finale.
Mais après, ils ont aussi un joueur, Lautaro Martinez, qui est exceptionnel en club. Un peu moins bien ces derniers mois, mais malheureusement, dans l'effectif de l'Argentine, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à s'intégrer. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais Lautaro Martinez, comme on disait, il y a Messi, Di Maria qui sont là depuis des années, et leur numéro 9, c'est censé être Lautaro Martinez, mais je trouvais un Kun Agüero, malheureusement, qui ne peut plus jouer au football, qui était plus impactant, qui était plus important, et là, c'est...
le côté de Lautaro Martinez, si tu regardes, en fait, il joue avec un attaquant de soutien, l'Inter de Milan. Et là, dans la composition de Scaloni, moi, ce que je ne comprends pas, c'est-à-dire qu'on peut faire jouer Messi en 10 derrière deux attaquants. Si tu mets un attaquant de soutien à Lautaro Martinez, il va se transformer. Et là, il a du mal quand il joue tout seul en pointe.
C'est ça. Et puis, il n'est pas non plus le plus physique des numéros 9. Donc, en plus, quand tu retrouve face à la Pologne ou je sais pas, il y a des équipes à l'Allemagne, tu te retrouves face à des Rudiger ou tout ça, ça va être très compliqué. Et on le voit, Lautaro Martinez, il le sort très très vite, et c'est là que le match prend une autre tournure. Mais le problème, c'est qu'ils ont plus personne derrière sur le banc. Et je pense que c'est un peu comme le Brésil, ils ont des très très bons joueurs, beaucoup d'individualités, mais le Brésil, on arrive aussi sur une fin de cycle, et on est beaucoup à dire la dernière de Ronaldo, la dernière de Messi, la possible dernière de Neymar.
C'est vrai qu'il y a beaucoup d'anciens sur cette Coupe du Monde.
Le Brésil a quand même plus de joueurs de grand niveau qui ont surtout affirmé leurs ambitions.
Et puis un banc et puis un groupe équipe. Le côté, c'est que le Brésil, c'est différent. C'est vrai qu'il y a commencé à y avoir des joueurs, Thiago Silva, etc. et qu'il va falloir, je pense, renouveler. Casimiro.
Il y a une grosse colonne de leaders, en fait.
Mais quand on voit l'équipe A et l'équipe B, c'est quand même la sélection qui a quand même deux équipes qui sont presque identiques sur
à tous les postes. À tous les postes, ils sont. C'est impressionnant. Et ils en ont laissé quelques-uns à la maison, en plus.
Firmino est pas là. Firmino.
Ça peut être piège.
Bon, donc les matchs le 30 novembre, donc ça sera le jour de Tunisie-France, ça sera le soir, ça sera Pologne-Argentine et Arabie Saoudite-Mexique. Bon, le groupe de l'équipe de France, on en a parlé, on passe à ce fameux groupe E aussi, Noël, le groupe de l'Espagne qui avait cartonné le Costa Rica 7-0, le pauvre Navas, et puis on va se rappeler qu'ensuite le Japon, ça a été une énorme surprise, a battu l'Allemagne 2-1. Un match complètement fou. Les Allemands auraient pu gagner 3-0. Et puis finalement, à l'arrivée, les Japonais qui n'ont rien lâché, réaliste, efficace, l'emportent 2-1. Hier, il y a eu un grand Espagne-Allemagne 1-1. Et puis le Costa Rica qui s'impose 1-0. Alors là, c'était l'effet inverse. Les Japonais ont dominé. Une seule occasion pour Costa Rica, but. Donc,
c'est le seul tir au but qu'ils ont fait de tout le mondial.
Absolument, absolument. Donc, avant même l'ultime journée, donc l'Espagne, 4 points, première. Deuxième, le Japon, 3 points. Troisième, le Costa Rica, 3 points, mais moins 6 naturellement au goal average. Et quatrième, l'Allemagne, 1 point. Alors, est-ce que l'Allemagne va y arriver? On va rappeler quand même que l'Allemagne va jouer le Costa Rica le 1er décembre. Au même moment, l'Espagne.
Ils vont atomiser le Costa Rica. Ils vont en mettre 4 ou 5. Comme ça, ils vont assurer la deuxième place du groupe.
Ah, vous pensez que Navas, il va reprendre 5 buts?
Ah oui, il va
vous êtes cher. Vous n'êtes pas gentil, monsieur Tosi, avec Navas. C'est mon chouchou.
C'est mon chouchou. En plus.
On en revient à quelque chose que vous avez dit tout à l'heure concernant Gareth Bale.
Totalement.
Gareth Bale n'a pas joué au Real Madrid depuis 6 mois.
Mais bien sûr.
Navas n'a pas joué au PSG depuis 4 ou 5 mois.
Bien sûr.
Et on a vu que dans ses interventions, dans le match contre l'Espagne, où il a au moins 3-4 buts pour lui, c'est pas le Navas qu'on connaissait.
Il manque d'automatisme.
La table au PSG. Voilà, il manque de jeu.
Manque d'automatisme.
Donc l'Espagne, grosse impression, devrait sortir de la poule avec l'Allemagne.
Ah oui.
D'accord.
Oui, okay. Là, il n'y a pas de problème de ce côté-là, premier, second. Je vois pas comment le
Costa Rica. Et le Japon, qui est une équipe qui a quand même séduit Eric.
Ouais, moi je l'avais annoncé à l'émission précédente, ouais. Et effectivement parce ouais. qu'ils sont toujours combattants. Donc voilà. Après leur désavantage qu'ils ont, parce que sinon je pense qu'ils seraient sortis, c'est que s'ils avaient eu l'Espagne en deuxième match. Et si en fait ils avaient eu après le Costa Rica en match de fin, c'est l'avantage pour l'Allemagne d'avoir le Costa Rica sur le dernier match. Mais ouais. S'il y avait eu Japon Costa Rica sur le dernier match là, je pense que le Japon finissait deuxième de groupe.
Ouais. Ouais. Je pense aussi qu'il pouvait. Il y a une petite anecdote qui est drôle sur le Japon. On dit que l'entraîneur du Japon, après le match contre l'Allemagne, il a fait rentrer ses joueurs en courant jusqu'à l'hôtel. Il y avait 17 km.
C'est pas étonnant.
Parce que pour qu'il soit en condition physique pour le match contre le Costa Rica.
C'est la mentalité.
Mais ça a eu l'effet inverse. Il aurait dû le faire récupérer.
Mmh. Voilà. Après avoir nettoyé le vestiaire.
Oui, parce que je sais qu'il nettoie très bien les vestiaires. Hein. Bon, Julien Valentin, Espagne, Allemagne aussi sortiront du groupe.
Oui. Enfin, je vois pas comment. Alors l'Espagne, oui, ils ont été flamboyants face au Costa Rica. Face à l'Allemagne, il y a quand même une bonne partie des phases offensives où ils essayent de contre-attaquer. Le problème, c'est qu'on se retrouve avec Ferran Torres qui se retrouve complètement tout seul, un Gavi qui est à droite. Il y a un milieu de terrain des fois qui
ils
est
ont
un
jamais
petit
une
peu.
Neuf,
ouais,
les,
c'est ça. C'est
les Espagnols, de toute
ça
façon.
Peut leur porter défaut parce ouais. que on voit sur une phase de jeu avant la mi-temps, ils ont une contre-attaque. Ferran Torres est absolument tout seul. Il y a 6 joueurs allemands face à lui, donc que faire? Ils ont failli se faire surprendre. Bon, il y a eu hors jeu sur le but le but hors jeu de Rüdiger. Mais oui, l'Espagne. Moi, je pense que ça peut aller loin, comme malheureusement, quand t'as pas de numéro 9, ils ont été souvent comme ça, c'est vrai. Mais
toujours.
Ça, ouais. c'est, là, il y a beaucoup de jeunes, donc à voir comment ça évolue.
Ils ont un avantage, Valentin, c'est que justement, ils pressent avec le côté de leur pressing, avec le côté de garder le ballon, d'avoir un jeu de possession à ce niveau-là, et de jouer vite, parce qu'ils ont des joueurs qui sont jeunes et qui jouent vite. Si on regarde Luis Enrique, l'avantage, c'est qu'au bout d'un moment, il fatigue les défenses, ouais. et au bout d'un moment, à partir de la 65e, il fait rentrer Morata et là ils ont un vrai neuf devant et là ça peut faire mal. C'est là le côté qui est bien pour l'Espagne.
Il est souvent décisif, Morata.
Mais bien sûr.
Il faut pas les laisser jouer. Hein. Si
totalement.
Vous laissez jouer
ah bah oui,
c'est
impossible.
Vous êtes mort.
Bah, c'est l'éternel problème. Oui, mais il faut pouvoir le faire
jouer,
aussi.
Il faut 80% de possession de balle contre soi. Et pour en revenir là, mais ça sera étroitement lié au groupe F.
Oui.
Si l'Allemagne finit second.
Oui.
Si l'Allemagne finit second du groupe,
oui.
c'est l'adversaire idéal pour le Maroc et pour que le Maroc aille
c'est ce qu'on disait
très
tout
loin
à l'heure.
Dans
voilà.
cette compétition.
C'est la réponse à Atim. Donc effectivement, alors le groupe F, on y va. Hein. La Belgique, on en avait parlé, avait été très décevante en s'imposant toutefois. Ric-rac contre le Canada 1-0. Il y a eu un nul entre le Maroc et la Croatie 0-0. Et puis, hier, on en a parlé, la belle victoire du Maroc contre la Belgique 2-0. Alors que la Croatie a écrasé le Canada 4-1. C'en est terminé pour le Canada, donc dernier avec 0 points. Croatie en tête 4 points, mais plus 3. Deuxième Maroc 4 points, mais plus 2 au goal average. Troisième Belgique 3 points. Équipe belge très décevante. Hein. On sent qu'elle est en fin de cycle. Hein, Noël.
Oui, et puis il y a des attitudes qui, qui sont incroyables. Par exemple, quand Lukaku rentre à un quart d'heure de la fin. Ouais. Il a été au contact avec aucun joueur, donc on voit qu'il n'est pas totalement rétabli. Il n'a pas gagné un seul duel de la tête, alors que c'est son point fort. Il n'a pesé en aucun cas, il n'a pris aucun ballon. Donc, ils ont fait rentrer un joueur blessé, à mon avis. Et ils ont peu de moyens, cette Belgique-là. Et j'ai bien peur que la Croatie et le Maroc aillent au deuxième tour.
Croatie-Belgique.
Quelle de finale, ouais.
Mais ça serait mérité.
Je pense que le coach de la Belgique n'a pas fait un choix de groupe, mais a fait un choix d'individualité qui sont là depuis longtemps.
Je suis d'accord.
Et en fait, ils n'ont pas renouvelé cet effectif qui pourrait s'appuyer sur des joueurs plus jeunes, etc. Alors peut-être encore un peu trop jeunes, mais pour les préparer justement à la suite. Parce qu'aujourd'hui, on voit un groupe qui n'a pas l'air d'avoir une super cohésion, qui a des individualités comme Eden Hazard, qui est capitaine alors qu'il est au placard depuis pas mal de mois. Donc c'est assez compliqué. Et on voit un De Bruyne qui est sous performant sur ce mondial-là.
Il est fantomatique.
Et ça pose quand même un certain nombre de questions parce que De Bruyne, quand on le met dans de bonnes conditions, il n'a pas ce niveau-là. Donc
Voilà, il y a de la qualité pourtant en Belgique, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, le groupe n'avance pas dans le même sens.
Et Martinez a joué son poste, ouais, pour moi.
Donc Croatie-Belgique et puis Canada-Maroc, donc c'est le 1er décembre. Donc Belgique-Croatie vont sortir de la poule. Hein.
Oui, c'est... avec un petit mot sur le Canada.
Oui, oui.
J'ai écrit un petit article là-dessus, oui, oui, oui. Au niveau du quotidien du sport, en disant que j'ai rarement vu une équipe se griller physiquement.
Oui, comme ça court au bout d'un moment, ça.
Le Canada s'est grillé dans le premier match contre la Belgique. Je vous rappelle qu'ils ont fait 45 minutes. La deuxième mi-temps, ils n'avançaient plus. Ils n'arrivaient plus à faire un contrôle, ils n'arrivaient plus à faire une passe parce que bah, il est impossible de presser pendant 90 minutes. Et c'est là que j'ai rigolé parce qu'il paraît que l'entraîneur du Canada, c'est l'entraîneur qui entraînait les féminines.
Ah oui,
avant d'entraîner, donc il a entraîné la Nouvelle-Zélande, il a entraîné les féminines du Canada, avant qu'on lui confie cette équipe-là.
Ouais.
Mais au bout d'un moment, quand on voit qu'on a raté 5 occasions, qu'on a pressé pendant 25 minutes, il faut en garder un peu sous la semelle. Et on voit qu'on ne peut pas passer contre une défense regroupée, on fait reculer le bloc équipe de 40 mètres, on se met dans un bloc mi-terrain ou plus bas pour faire sortir les adversaires, et il a des joueurs de rupture. Ce qui veut dire que lui... il fallait qu'il y ait de l'espace dans le dos de la défense pour qu'il soit performant. Mais ni dans le match de la Croatie et ni dans le match de la Belgique, il a réalisé ça. Ouais. Alors, je suis entraîneur, je ne vais pas critiquer un entraîneur. Je trouve que c'est dommage parce qu'il y avait vraiment, avec Buchanan, avec tous ces joueurs offensifs, il y avait vraiment quelque chose. Avec...
Ouais.
Moi aussi. Et là, je suis resté sur ma faim parce que c'est une équipe que j'aurais aimé...
Moi, Buchanan, j'envoie un message aux dirigeants de Ligue 1. Posez-vous sur ce joueur parce que je pense qu'il y a des possibilités.
Très bien.
Par contre, moi, je vois pas Belgique-Croatie.
Je vois
Croatie et Maroc sortir du groupe.
Je vois pas la Belgique.
Pour moi,
la Belgique va passer.
Belgique-Maroc, oui, oui. Justement, il y a Croatie-Belgique.
Et ça va être le match qui va faire que, mon avis.
Oui, bien sûr, Maroc.
Et la Croatie sera toujours là vers la fin. Vous verrez Croatie.
Ils ont une intensité qui est pas celle de la Belgique. Hein.
Oui, donc Croatie-Maroc vont sortir sur Belgique, bien sûr.
Après, dommage pour le Canada, parce que je pense que s'ils mettent le pénalty à la 10e minute, on n'est plus sur le même match. Parce que quand même, ils rentrent très très bien dedans. C'est, certes, ils font le pressing pendant 45 minutes et après, ils ne mettent plus un pied devant l'autre. Mais les Belges, oui, la défense, c'est la même défense depuis 20 ans.
Non, c'est la fin d'un cycle, c'est fini pour la Belgique.
Eden Hazard, capitaine...
une génération qui va passer à côté.
Si Batshuayi non plus ne joue pas non plus, il a jamais. On l'attendait à un niveau qu'il n'a jamais vraiment atteint. Donc et De Bruyne qui joue à droite. Bref, c'est une équipe c'est assez particulière.
Attention Thierry Henry.
C'est honteux d'être autant de fois hors jeu. Pour Batshuayi, de Michy Batshuayi, c'est honteux à ce niveau-là d'être autant hors jeu que ça. 7, 8, 9, 10 fois hors jeu. Dans un match, c'est scandaleux, quoi. Je veux dire, à ce moment-là, il aurait dû le sortir avant, mais apparemment, il a personne d'autre, quoi.
Mais le Canada, au contraire de la Belgique, ils se préparent eux pour 2026.
Ah oui.
Et je pense qu'au Canada, ils ont quand même donné une bonne image du football qui est pas très suivi aujourd'hui.
Faut changer le coach, quoi.
On va leur donner un conseil de prendre Hervé Renard comme entraîneur.
C'est ce que je venais de dire, monsieur.
Pourquoi pas. Au moins un autre coach. Pourquoi pas. Allez, deuxième pause musicale. Et puis on va finir avec les groupes, Noël. Et on sait qu'il y a le match Portugal-Uruguay qui se déroule au même moment que l'on parle. On regarde également ce match et on va vous tenir informés. Allez, deuxième pause musicale, NASA, Joli Bébé. Et puis on finit après avec les groupes G et H.
Je rentre tard, je le dis pas. Je suis pas très loin en bas du bloc. Nos sentiments sont condamnés. Je vends 10 balles en bas du bloc. Ici pas d'hirondelles, c'est les balles qui sifflent. Pardonne-moi ma belle, je t'emmène loin d'ici. Depuis tu me loues, j'entends les balles qui sifflent. Pardonne-moi ma belle, je t'emmène loin d'ici. Je traîne la nuit gantée. Je me sens menacé. J'aime tes conseils. T'es ma dulcinée. Joli bébé, ma douce. Je te donnerai mon cœur sans souci. Joli bébé, ma douce. Je te donnerai mon cœur sans souci.
Je te le donnerai de toute façon. Y'a que toi dans penser.
J'ai l'impression que je suis bloqué, mon passé me rattrape. Dis-moi à qui la faute.
Y'a que toi de me penser.
T'as pas lâché l'affaire, tu seras la merde. Mais même toi t'es pas comme les autres. Coco Chanel Louis Vuitton, j'arrive comme un coup d'état. Monnaie, je dois faire everyday. Pour toi, je serais obligé de t'aimer en faisant attention. Tu me trompes, je deviens assassin. Le vrai qu'une irritation, ça va finir en pension. Elle critique mon train de vie, dit que je suis criminel. Quand elle sort le samedi, je me sens privé d'elle. Je suis dans les affaires arbées, j'ai ça dans les veines. Dans les vibes arbé, j'suis dans les vibes arbé.
J'suis de la zone, bébé. Tu le savais depuis longtemps. J't'avais dit qu'on ferait pas semblant.
J'suis dans la zone, bébé. Mais c'est plus comme c'était.
Joli bébé, ma douce. J'te donnerai mon cœur sans souci. Joli bébé, ma douce. J'te donnerai mon cœur sans souci.
J'te le donnerai de toute façon. Dans mes pensées.
L'impression que je suis bloqué, mon passé me rattrape. Dis-moi à qui la faute.
Y'a que toi dans mes pensées.
T'as pas lâché l'affaire, tu seras la merde. Mais même toi t'es pas comme les autres.
J'suis dans la zone, bébé.
J'te donnerai mon cœur, mon cœur, mon cœur.
J'suis dans la zone, bébé.
J'te donnerai mon cœur, mon cœur, mon cœur. J'te donnerai mon cœur.
Voilà, vous êtes dans l'ambiance. Alors, on va finir sur les deux derniers groupes, Noël, tout en rappelant que pour l'instant, Portugal-Uruguay, c'est à 0-0. Hein, mais c'est un match assez statique en ce début donc, de partie. Donc, groupe G, hein, le Brésil qui avait, j'allais dire, assuré en battant donc, la Serbie 2-0. Victoire de la Suisse devant le Cameroun 1-0. Et puis, bah, dans les matchs du jour, hein, le Brésil a battu la Suisse difficilement 1-0 aujourd'hui. On a vu ça avant de rentrer donc, dans nos studios. Et puis, un match complètement fou cet après-midi. Cameroun-Serbie 3-3. Alors après donc ces matchs et avant la dernière journée de vendredi où on aura un Cameroun-Brésil alléchant et puis un Serbie-Suisse. Donc le Brésil en tête avec 6 points, devant la Suisse 3 points, 3e le Cameroun 1 point, 4e la Serbie 1 point, moins 1 pour le Cameroun, moins 2 pour la Serbie. Le Brésil avec qui Noël d'après vous? La Suisse?
Ah ben moi j'aurais vraiment aimé le Cameroun ouais. Toujours pour avoir ces équipes africaines qu'on ouais, a, bah on arrive oui. à propulser au plus haut niveau, mais je ne vois pas dans l'état ouais. d'euphorie qui anime ouais. le Brésil, et puis avec les coiffeurs qui vont rentrer et qui vont essayer de montrer qu'ils sont aussi bons que les titulaires, ça m'étonnerait que le Cameroun arrive à gagner. Après, Serbie-Suisse, c'est...
ouais, c'est difficile oh là comme là, match. Hein ouais.
On ne sait pas, parce que... La Suisse, c'est la Suisse. C'est-à-dire, on a vu pendant 80 minutes, ils ont quand même posé des problèmes ouais, défensifs.
C'est une équipe jamais facile à jouer, ouais. Jamais.
Non,
ouais.
on le sait. Hein. On a payé au championnat d'Europe pour ça.
Ouais.
Alors là, je suis incapable de faire un pronostic.
Ah bon? Ouais.
Ah non, je suis incapable de faire un pronostic sur la Serbie et sur la Suisse.
Allez, on va jouer la tradition que... Brésil-Suisse. hein comme ils arrivent assez souvent en huitième quand même, les Suisses, voilà.
Ouais, écoute, ouais. bon, on va y croire comme ça, hein, on va y croire comme ça, parce que ils ont quand même tenu la dragée haute au Brésil. Là, ils ont fait un match rouge, un match nul. Mmh. C'est une belle équipe, hein. C'est une belle équipe, hein. Tout comme la Croatie, c'est des équipes très difficiles à jouer, qu'il vaut mieux rencontrer en fin de course qu'au début, comme ça.
Alors, Noël, le Brésil est la deuxième équipe qui a déjà assuré sa qualification après l'équipe de France. Quelle impression ça laisse? On a le sentiment qu'elle en a un petit peu sous la semelle, qu'elle n'est pas encore pied au plancher.
Oui, mais vous avez vu que le Brésil sans Neymar, il manque un peu d'âme. Oui.
63% de succès sans Neymar contre 85% quand il est là. Voilà, c'est les stats.
Oui, mais là ça leur a manqué. Il n'y avait pas la folie habituelle. Il a fallu se remettre à... à un exploit, une demi-volée assez extraordinaire.
Et contré.
Du joueur qui joue même pas à Manchester United. Hein, vous savez qu'ils ouais. le font pas jouer, Casemiro.
Ouais. Ouais,
ouais. Ouais, ils font pas jouer Ronaldo, ils font pas jouer Casemiro. Alors, je sais pas si c'est l'entraîneur qui comprend rien, mais en tout cas, ils ont la chance de pouvoir mettre des joueurs comme ça sur le banc. Hein. Voilà. Enfin, bon, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Hein.
En tout cas, le Brésil aura le but du mondial pour l'instant avec Richarlison. Hein. Quel but, contre la Serbie.
Hein. Oui.
Magnifique.
Ouais, magnifique. Hein. Allez, le dernier groupe, puisqu'il y a encore un match qui se déroule actuellement. Le Portugal avait battu le Ghana 3-2. On a vu un 0-0 entre l'Uruguay et la Corée du Sud. Et puis aujourd'hui, le Ghana, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure, a battu la Corée du Sud 3-2. Alors avant le match de ce soir, pour l'instant, le Portugal est en tête avec 3 points, mais il lui reste naturellement son match à jouer ce soir. Devant le Ghana, 3 points. Quatrième, Uruguay, 1 point. Et puis quatrième, donc Corée du Sud, 1 point. Voilà.
Ah, c'est dommage. Hein. Oui. Ces Coréens, vraiment, j'ai jamais vu une équipe avec autant de dynamisme. Je ne sais pas comment ils se sont préparés pour la Coupe du Monde. Vous savez qu'en moyenne, un joueur, ça fait entre 10 et 12 km dans un match.
Oui.
Et eux, ils ont dû faire entre 15 et 20 km. J'ai jamais vu une équipe courir autant. J'ai jamais vu. Et vous avez vu la détermination du joueur qui fait 20 cm de moins que le joueur ghanéen sur le deuxième but, la détermination où il va chercher le ballon à la tête. Oh, que j'aimerais que cette équipe passe un tour de plus, mais bon,
ça va dépendre.
Ouais, c'est dommage. Ouais.
Portugal-Ghana sont en ballotage favorable pour sortir de la poule.
Portugal-Ghana.
Il y a Ghana, Uruguay et puis Corée du Sud-Portugal, donc c'est vendredi 2 décembre.
Moi, ça va dépendre.
Ghana-Uruguay, je pense que le Ghana va avoir du mal. Ah. Parce que sur ce qu'ils ont montré ce soir, ça va être simple. Là, ils ont gagné très bien. Et là, ils ont laissé de l'énergie. Il faudrait que je voie le match Portugal-Uruguay tout à l'heure. Ouais. Et bah j'aurai un peu plus de d'avis.
Ouais. L'Uruguay, c'est un petit peu comme l'Argentine. Ça paraît être en fin de cycle, Noël.
Oui. Mais alors, là, c'est la question qu'on se pose. Si l'équipe de France, il y avait eu N'Golo Kanté, s'il y avait eu Pogba, s'il y avait eu Umtiti, s'il y avait eu Varane, et s'il y avait eu Benzema.
Bah oui.
On aurait eu une équipe vieillissante aussi.
Oui, bien sûr.
Et est-ce qu'on aurait eu les mêmes résultats qu'avec Tchouaméni, avec tous ces jeunes qui sont rentrés, Dembélé, etc. On le saura jamais.
Oui, on verra quand il y aura un bilan à la fin de ce mondial.
Vieillissante, mais il y a quand même beaucoup plus de joueurs de qualité derrière. Quoi.
À part Umtiti qui a quand même un genou en plastique du monde, Pogba, Kanté sont quand même à des niveaux bien au-dessus d'un Cavani ou Suarez, par exemple.
Bien sûr, je suis d'accord. Moi, je pense qu'ils auraient dû repenser l'équipe, tout comme ils auraient dû repenser l'équipe d'Argentine autour d'un Messi, parce qu'il faut un joueur d'expérience. Garder les vieux sur le banc pour les fins de match, puisqu'on a besoin de l'expérience. Et je pense qu'ils auraient dû repenser ces deux équipes, Argentine et Uruguay, ne serait-ce que pour avoir un avenir plus clair. Ils font peine quand même. Je pense que le Portugal va gagner ce soir.
Logiquement, normalement.
Je pense que le deuxième de groupe, ça va jouer entre le Ghana et la Corée. Parce que la Corée, aujourd'hui, a qu'un seul point. Mais en fait, ça va dépendre du match de ce soir. Mais tu vois, Philippe, le côté, c'est que ça va dépendre du match de ce soir. Si ce soir, le Portugal, ce qui normalement devrait être, gagne ce match, ils vont avoir 6 points.
Ils
vont faire tourner.
Ils
vont faire tourner. Et la Corée, c'est comme on a vu avec le Japon, c'est-à-dire que toutes les équipes asiatiques.
Ça court, ça court.
Non, mais pas que ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne lâchent jamais rien, c'est-à-dire s'il faut jouer 98 minutes, 100 minutes, ils jouent pour la nation, ils ont ça dans le sang, c'est ce côté-là. Ils ont quand même du football, hein. Je pense qu'ils auraient pu mieux faire dans ce groupe là sur les deux premiers matchs, mais ils peuvent jouer un Portugal qui est déjà qualifié, et le Ghana et l'Uruguay, ça peut être compliqué, peut faire un match nul, et donc derrière, il peut y avoir 4 points pour le Ghana, 4 points pour la Corée du Sud, et après ça va se jouer à la différence. Donc voilà, moi je pense qu'entre le Ghana et la Corée, ça peut être le deuxième de groupe.
Très bien, bah, on verra ça. Merci Noël en tout cas de nous avoir
merci à vous,
consacré
c'est
toute
c'est
cette
très intéressant d'être avec vous.
7h30 hein, de
c'est vivant.
Ouais,
pour nous aussi.
Et puis on se retrouve mercredi, hein. On vous lâche pas. Hein,
on se retrouve mercredi, hein. Ça va. On
il y a le grand direct avec LAG, Abou, toute l'équipe. Bah, l'avant-match 15h-16h. Ouais. Ensuite le commentaire donc de nos deux buteurs de pointe, hein, donc Abou et LAG entre 16h et 18h. Et ensuite l'après-match. Hein, donc,
mais Abou, il a une boule de cristal, non? Abou, il a une boule de cristal parce qu'il donne, il donne les résultats, il donne les résultats avant les matchs. Donc, à mon avis, il faut le mettre dans un concours de pronostics et il faut le mettre en avant parce qu'il est très fort.
Hein. Ouais, ok, très bien. On le lui dira. Hein. Il est drôle pour aujourd'hui. Il a bien mérité parce que ce matin, il était donc à la Tour Eiffel pour le lancement de la campagne de billetterie de Paris 2024. Donc il a bien mérité d'être en pot. Merci en tout cas, Noël. À mercredi.
Merci à vous tous.
Et merci puis, Noël.
À mercredi.
Voilà. Allez, merci Noël. Voilà, je vous rappelle donc mercredi effectivement grand direct et puis l'autre rendez-vous Eric c'est le dimanche prochain donc dimanche
pour le 8e.
4 décembre à 16h pour les 8e. Voilà pour ce mondial, je pense qu'on a été assez complet. Hein,
on a été très bien.
On se régale quand même.
Ah ouais.
Hein, donc c'est bien. Voilà, alors il y a quand même pas que le mondial, hein, il y a d'autres événements. On va pas oublier quand même nos amis du national, le Paris Atlético qui a concédé le nul contre Concarneau, un partout, donc vendredi. Dans le même temps, victoire de Versailles, tiens, qui a un nouvel entraîneur, Chris.
Ouais, Chris. Ouais.
Versailles qui a battu donc Villefranche en Beaujolais, donc 2-0 à Villefranche en Beaujolais. Victoire du Red Star face à Nancy 1-0. Ça, c'était un match. Des anciens, hein, on se rappelle, c'était des matchs de Ligue 1. Et bien, c'est Concarneau qui est en tête avec 26 points, devant Versailles et Dunkerque, 22 points. Quatrième, le Red Star et Cholet, 21 points. Et puis, Paris Atlético, pour l'instant, ils sont encore au bord de la zone de relégation. 15e avec 13 points. 16e, Le Puy, 11 points. 17e, Borgo, 10 points. Et 18e, Saint-Brieuc, 8 points. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette équipe de Paris Atlético, Valentin? Bon, il n'y a pas eu, elle a changé d'entraîneur. Il n'y a pas eu véritablement donc, d'effet hein, au changement d'entraîneur. Bon, là, elle a quand même tenu en échec, même à domicile, le leader Concarneau, même s'il était donc à Paris.
Ce qui est une bonne performance, mais malheureusement, c'est les mêmes problèmes, problématiques depuis le début de saison. Ça crée, ça joue en bloc, c'est bon défensivement, malheureusement, dans les 20 derniers mètres. Il faut la passe, le joueur qui fait une différence. Ouais. Ils ont beau faire entrer des joueurs qui sont vifs, rapides, impactants, mais malheureusement, à chaque fois, dans les 20 derniers mètres, voire les 15, parce qu'ils arrivent tout le temps à avoir. Devant la surface, même au point de pénalty, des fois ils sont 5-6 autour du ballon et ça, je sais pas, ils osent pas tirer, ils osent pas faire le décalage qu'il faut, le dribble. Ils sont assez peureux dans cette surface.
Bon, pour l'instant, ils se battent pour éviter la relégation, ils en sont pas très 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 loin, mais enfin bon. Ça va être jusqu'au bout. Hein.
Ça va jouer au mental. Donc, je lance un appel au président du Paris, Athletic Club. Hein. S'il veut, je peux travailler avec son équipe.
Ouais. Alors, tiens, justement, on n'oublie pas les féminines. On va parler aussi de la Ligue des Champions féminines. Ça va vous faire plaisir. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 5-0, Eric.
Ouais.
Hein, troisième journée contre Skroder, les Finlandaises. Mais bon, PSG pour l'instant, deuxième à égalité avec le Real, avec 4 points. Bien loin de Chelsea qui est en tête avec 9 points. Et devant Skoder, naturellement, dernier avec 4 points. Et puis, dans l'autre match de l'équipe française, Lyon est allé faire 1-1 à Zurich. Ça fera plutôt plaisir à Julien. Hein, donc, Arsenal en tête avec 7 points. Devant donc la Juventus, 5 points. Troisième, Lyon, 4 points. Et quatrième, Zurich, 0 points. C'est la troisième journée. On est à mi-championnat.
Lyon, moi je m'en fais pas. Ouais. Ils ont une expérience de féminine qui est de toute façon devant beaucoup d'équipes. Hein, ils l'ont montré avec leurs résultats. Ouais. Paris, on travaille d'année en année. Cette année, le point noir, c'est dommage. Hein, je veux pas tirer sur l'ambulance, mais c'est la gardienne. Réellement, on a perdu beaucoup de points vis-à-vis de ça. C'est un peu dommage parce qu'elle a de l'expérience, mais est-ce que c'était le bon recrutement? Je sais pas.
Bah, on verra à la fin. Ils ont cédé leur gardienne à l'Olympique Lyonnais. Qui était quand même.
Ils ont cédé, elle a voulu partir.
Oui, aussi. Mais moi, je voudrais dire sur le football féminin qu'on voit quand même que on rentre un peu plus. dans la moyenne des clubs. Avant, on était largement au-dessus. Ça fait quand même 3-4 ans qu'on voit une vraie évolution. Année, hein. Tous les gros clubs ont investi aujourd'hui sur le foot féminin, ce qui n'était pas le cas encore il y a 2-3 ans. Et on voit que Lyon a des difficultés cette année en Ligue des Champions.
Aussi,
alors qu'habituellement, le premier tour, c'était vraiment une balade de santé. C'était du 5-0, 6-0 à tous les matchs. Là, ils ont perdu. Ils ont pris une grosse claque au premier match de Ligue des Champions. Ils ont fait deux matchs nuls, dont un contre Zurich, qui, pour le coup, est très décevant pour l'Olympique Lyonnais, parce que là, ça commence à faire tâche après trois matchs. Mais bon, c'est vrai qu'ils ont l'habitude de ces choses-là. Ils ont l'habitude de jouer cette Ligue des Champions. Ils sont encore les favoris, en tout cas parmi les favoris. Ouais.
Bon, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué cette année, hein, pour nos féminines, aussi bien pour le PSG que pour Lyon.
Il va falloir s'adapter au fait que le niveau se soit resserré et qu'ils ne soient plus les favoris à chaque match. Hein.
Non, mais c'est sûr. Mais après, bon, je pense que l'Olympique Lyonnais, en ce moment, ils ont un gros point noir qui est... On saura les tenants et les aboutissants, mais il y a un problème dans ce dossier de rachat. Je pense qu'on nous casse des choses.
Je trouve très inquiétant.
Moi aussi. Côté, j'ai un peu peur qu'on nous fasse une cache-car à l'OL. Je sais pas. Le papier qui manque tous les 15 jours, je sais pas. Quand on veut acheter un club, on l'achète.
Un milliardaire qui met 5 millions de sa poche et le reste qu'il va chercher à droite à gauche.
Et qu'il a pas.
Ça peut se faire.
C'est un peu problématique. Il a pas fait le tour de terrain comme cache-car l'avait fait à l'OM, mais franchement, ça fait peur.
Non, et puis contrairement à beaucoup de supporters lyonnais qui étaient pour un départ de Jean-Michel Aulas, moi j'ai toujours cette crainte quand quelqu'un d'aussi important part d'un club de ce qu'on peut retrouver après. Et malheureusement, les exemples montrent plutôt que les choses sont pas très positives.
Je vais dans ton sens, Julien. Regarde l'Auxerre après Giroud. Alors, c'est pas le président, mais c'est quand même
c'était
la
l'homme
main.
À tout faire. Hein.
C'est l'homme qui est le plus important du club à ce moment-là.
Et derrière, ça fait catastrophe. Alors, je dis pas que ça fasse catastrophe comme ça et je l'espère pas pour Lyon parce que c'est un grand club et il faut qu'on ait un championnat de France qui soit d'attaque, mais c'est important.
C'est sûr que le président Aulas, il va tout faire pour que son club.
Il s'est toujours
moyen pour
qu'il
y ait une relève qui soit bien.
C'est pour ça qu'il essaye de garder la main pour au moins 2-3 années. Oui.
Juste un petit point dont on n'a pas parlé, mais très très vite. Oui. Vous avez vu la rumeur sur l'éventuel retour de Benzema dans le groupe ?
Non.
Si, vous n'avez pas vu ?
Si. Il est encore sur les listes de matchs, apparemment.
Alors, à ce qui paraît, il ne serait plus blessé dans une semaine. Non. Et on nous l'annonce, moi j'y crois pas, mais nous annonce un retour.
C'est une fake.
Moi aussi, je pense.
J'ai vu ça passer, mais je suis pas sûr.
Je me suis dit, c'est vraiment gros
c'est impossible. Bon, voilà, il est rentré précipitamment, mais parce que le Real l'a demandé. Voilà, ça c'est sûr. Allez, le championnat féminin 9e journée. Donc Paris Saint-Germain qui va gagner en 1-0. Lyon qui va gagner au Paris FC, tout près d'ici, donc 3-2. Lyon en tête avec 25 points devant le PSG 23. 3e PFC 18. Bon, on s'achemine vers un duel Lyon-PSG.
Paris FC qui monte d'année en année, qui fait des choses intéressantes et qui ont une réelle volonté de faire progresser le club à ce niveau-là, qui n'est plus aussi loin des deux premiers que les années précédentes. Et là, on le voit, 3-2 contre Lyon. Il y a deux ans, c'était 6-0. Donc,
comme tu le disais, Julien, c'est-à-dire que les clubs commencent à investir. Et on voit le niveau. Hein. Moi, j'ai regardé les différents euros et mondiaux au niveau du football féminin. Et effectivement, le niveau monte et ça devient très, très, très intéressant.
Allez, Julien, comme on parlait des clubs, Julien, Eric et puis donc Valentin, comme on parlait aussi des clubs de notre arrondissement, on va finir avec le basket et le volley. Le volley, Valentin, 10e journée championnat. Lundi dernier, donc Paris a été battu à domicile par Narbonne 3-1. Et puis, par contre, ça va beaucoup mieux. Ils ont gagné ce week-end 3-0 devant Poitiers. Ils sont, j'allais dire dans le ventre mou, 9e avec 11 points sur 14 équipes. Chaumont en tête, 26 points. Deuxième tour, 23 points. Et troisième, Nantes-Rezé, 20 points.
Effectivement, la deuxième victoire de la saison.
Donc
mais ça fait plaisir, ça donne un peu d'air, on va pas se mentir. Ouais. À chaque fois, c'était des 3-1, des 3-0 qui prenaient. Là, c'est à eux de mettre un 3-0, donc c'est bien. Mais attention, parce que la semaine prochaine, ça affronte Nazaire, qui est quatrième, et très très grosse équipe de volley, vraiment, qui ont un très très bon jeu. Donc j'espère que le Paris Volley, cette victoire, ils vont s'en servir, parce que surtout 3-0...
Ils se déplacent là-bas ou ils jouent à Charpie ?
Je crois, oui, ils se déplacent là-bas, effectivement. Donc en plus, donc ça va être compliqué, mais j'ai regardé le match de ce qu'ils ont montré. Ils ont toujours les mêmes tactiques. C'est toujours sur le... J'avais dit qu'il manquait vraiment cette petite étincelle pour déclencher quelque chose, de s'appuyer sur ça. Et là, vraiment, il faut qu'ils s'appuient sur ce qu'ils ont fait pendant ce match. Surtout dans le deuxième quart, parce que c'est vraiment c'était du vrai volley. C'était, on sentait que les joueurs, il n'y avait aucune tension, qu'ils ne s'énervaient pas. Et ça les a amenés à une victoire. Donc on espère que ce ne sera pas la dernière de la saison.
Allez, Paris Basket, par contre, ça va beaucoup mieux à l'issue de cette 10e journée de championnat. Victoire face au Portel, 85-77. Le Portel, je crois que c'est l'équipe qui est dernière ou très mal passée du championnat. C'est ça.
Alors, deux victoires et 8 défaites. Ouais.
Boulogne-Levallois a gagné à Nancy 92-78 et que l'équipe fétiche d'Eric, donc Nanterre, a été battue à domicile
80-71
par Strasbourg.
Je suis déçu, c'est pas une bonne saison.
Donc c'est, par contre, c'est Boulogne-Levallois, eux sont en tête avec Cholet 81,9%.
Ils ont Messi.
Victor Wembanyama qui est quand même, on va pas se mentir, la NBA a acheté les droits. Ce n'est pas pour rien. Bon, il y a un petit problème sur les droits qui ont été achetés. Bref, la NBA, c'est un peu magouille et compagnie. Mais c'est vrai que quand on a Victor Wembanyama qui est l'année prochaine sera numéro 1 de la draft français, ça fait plaisir. Ça fait plaisir en tout cas qu'ils soient français. On est content. Mais c'est une très très bonne équipe. C'est normal qu'ils soient paumés. C'était Monaco qui avait bien démarré, mais malheureusement ils se sont fait rattraper par les blessures. Ils jouent beaucoup de matchs cette saison, donc avec la Ligue des Champions et tout ça. Donc c'était logique.
Vous savez, petite anecdote que je vais vous donner vis-à-vis de Wembanyama, c'est vous savez, vous n'êtes pas censé savoir, et puis Valentin encore plus, que vis-à-vis de la draft aux États-Unis, en fait, le dernier du championnat américain a le premier choix pour la draft. Donc en fait, aux États-Unis, il y a beaucoup de papiers qui sont sortis, comme quoi il y a des clubs qui vont jouer la dernière place du classement pour avoir Wembanyama l'année prochaine.
C'est pas des clubs, c'est beaucoup de clubs, parce qu'il y en a chaque année des clubs qui jouent la dernière place. Voilà. Mais là, cette année, ils ont monté vraiment le truc. Et c'est vrai que. Mais ça, c'est une belle mise en lumière pour les coéquipiers de Wembanyama aussi, et pour le basket français.
Mais c'est une pratique qui est censée être depuis quelques années considérée comme illégale dans le règlement de la NBA. Malheureusement, on va pas se mentir, cette saison, on voit Détroit qui ont d'ailleurs Killian Hayes, qui aussi Sekou Wembanyama, Sekou Doumbouya, qui sont deux Français qui sont passés par les Pistons et que Kylian y est encore. Donc ils vont avoir potentiellement, c'est eux qui sont les plus probables à avoir ce premier choix. On n'est jamais à l'abri d'une surprise. Il y a aussi Houston qui est aussi avant-dernier. Et les Lakers, étonnamment, qui ont un mauvais effectif, qui ont LeBron James, et se sont dit, j'ai pas envie de recruter. On va dire qu'ils forcent pas trop leur jeu, ce qui pourrait vraiment arranger beaucoup LeBron et Anthony Davis. Donc oui, Victor Wembanyama. C'est un phénomène. ESPN en parle, tous les médias américains en parlent. Nous en France, même dès qu'il va se déplacer, Paris Basket, on a vu toutes les places sont prises. Même les médias, c'est très compliqué d'avoir une
interview.
C'est ça. Donc c'est le match vraiment à pas louper.
3 heures de queue pour aller.
C'est ça.
Oui, pour le match.
Pour tous les matchs. À domicile.
Puis c'est la première fois qu'on met autant en lumière un joueur non américain avant qu'il intègre la ligue.
C'est un monstre.
C'est ça qui.
Et la proie, ça fait du bien pour la proie.
Super,
bien sûr. En tout cas, Nanterre, Nancy et le Paris Basket sont 10e à égalité avec 40% des points sur 18 clubs. Voilà, donc ça va un petit peu mieux quand même pour le Paris Basket.
Si on regarde, il y a encore un mois, ils étaient avant-dernier, c'était 3e en partant de la fin.
Mais vous avez porté chance avec Abou, vous êtes allé
au match à Roland-Garros,
ils ont été battus de pas grand-chose.
Je suis d'accord.
Depuis le match à Monaco, il y a eu un déclic, ils sont rentrés dedans. Le coach d'origine canadienne, ça a apporté ses fruits. Il a un style très NBA, très américain, Amérique du Nord. Et franchement, la victoire face au Portel était logique, mais nécessaire, et était même obligatoire, parce que face au dernier, tu ne peux pas. Et 85-77. Et il y a des anciens comme Axel Toupane, qui est ancien joueur en NBA, champion avec les Milwaukee Bucks, et ancien international français, il peut toujours être sélectionnable, qui fait une très très bonne saison, 18 points encore, donc le meilleur marqueur de la soirée. Donc Paris 12e, je pense que ça peut encore monter un petit peu s'ils donnent les armes.
Ouais. En tout cas, il y a un beau match de NBA au mois de janvier, on va essayer d'avoir les organisateurs.
On espère.
On a envoyé un mail, on va voir. Dernier petit mot, Eric. J'ai lu que le Parc des Princes était en vente.
Vous savez, c'est que j'ai eu plein de messages et autres, etc. Y a un gros coup de pression des dirigeants et notamment de Nasser El Khelaifi, le président, vis-à-vis de la mairie de Paris. En fait, il y a un gros bras de fer avec la mairie de Paris. C'est juste une question d'argent, en fait.
Il fait monter les enchères, quoi. Voilà.
Enfin, c'est surtout la mairie de Paris qui fait monter les enchères.
C'est ce que
au bout d'un moment, ça va se négocier. De toute façon, il y a une chose qui est sûre. Et ça, voilà, je sens sans trahir certaines choses. Il y a beaucoup de rumeurs sur le fait du Stade de France. Oui. Sachez que le board du Paris Saint-Germain ne veut pas aller au Stade de France.
C'est un côté de pression.
Mais par contre, s'il n'arrive pas à se sortir de la négociation avec le Parc des Princes, au bout d'un moment, ils partiront et ils construiront un stade pas très
chez
loin Carlolive, de Poissy, pas très loin de Poissy.
Chez notre ami Carlolive.
Et ils construiront un stade aux alentours de 80 000. Si c'était au Parc des Princes, on serait sur une construction pour avoir 60, 62 000 places, parce qu'il y a le périph' en dessous et qu'on ne peut pas faire beaucoup de places. Mais ça leur irait.
Le Parc des Princes détruit, c'est incroyable.
C'est surtout le PSG au Stade de France.
Ils n'iront pas.
Oui, mais même dans le plus grand.
C'est pas un stade de club.
Justement, ça serait vraiment très décevant.
C'est un stade d'événement, mais pas de club.
Le son ne rentre pas, il sort, même pour les concerts. C'est pas un stade.
Et on voit bien en finale de Coupe de France, à chaque fois qu'il y a le PSG, c'est pas non plus des énormes.
Non, ça sera soit le Parc des Princes.
C'est pas des belles finales et c'est pas ce qu'on retient le plus. Le Parc des Princes, il y a son histoire. On se rappelle le Paris Saint-Germain.
Vis-à-vis de ce que tu dis, on se rappelle, nous, pour les anciens, Philippe, les finales de Coupe de France. Les finales de Coupe de France au Parc des Princes, hors Paris, étaient des finales où il y avait une ambiance 10 fois plus importante que les finales de Coupe de France quand ils se font au Stade de France aujourd'hui. De toute façon, ça sera soit le Parc des Princes et ils arrivent à trouver un deal, soit sinon ils construiront leur stade.
Très bien, on en reparlera dans les prochains mois, Eric. Merci en tout cas. Rendez-vous la semaine prochaine.
La semaine prochaine.
Julien, la semaine prochaine.
La semaine prochaine,
bien,
avec plaisir.
Très bien. Valentin, écoute-toi. À la semaine prochaine aussi. On va remercier notre ami Jason une nouvelle fois d'avoir été brillamment aux manettes ce soir.
Un maestro.
Et puis, on va finir. Tiens, cette fois-ci, je vais bien le prononcer. Aurel Sad. Voilà. Allez, la quête. Bonne soirée à toutes et à tous. N'oubliez pas, nos rendez-vous de mercredi et probablement de dimanche prochain concernant les matchs de l'équipe de France. Sinon, mon Paris Sport, c'est la semaine prochaine, 19h-20h30, toujours en configuration mondiale. Belle soirée à toutes et à tous, et allez les Bleus, messieurs.
Allez les Bleus.
Rien peut me ramener plus en arrière que l'odeur de la pâte à modeler. Maman est prof de maternelle, c'est même la maîtresse d'à côté. J'ai 5 ans et je passe par la fenêtre pour aller me planquer dans sa classe. Elle me dit t'es pas censé être là, j'ai dit près de toi c'est là ma place. J'aime que les livres, je préfère être seul, donc je suis plus content quand il pleut. Je fais quelques cours de catéchisme, mais je suis pas sûr de croire en Dieu. J'ai 7 ans, la vie est facile, quand je sais pas je demande à ma mère. Un jour elle m'a dit c'est pas tout, j'ai perdu foi en l'univers. À 5 ans, je voulais juste en avoir 7. À 7 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Je balaye les feuilles mortes sur le terrain. Le froid me fait des cloques sur les mains. J'ai 10 ans, je suis fan de basket. Je m'habille en petit américain. Mon père, mon héros, m'a offert les Jordan 8 avec les scratchs. Donc je fais tout pour le rendre fier quand il vient me voir à tous les matchs. Je rentre au collège, on me traite de bourge. Normal, mes chaussures coûtent une blinde. Je veux plus les mettre, mon père s'énerve. Toi, nous, on n'avait rien. J'ai 12 ans, je fous le bordel en cours pour essayer de me faire des potes. Le prof de musique se fout en l'air, il est au paradis des profs. À 11 ans, je voulais juste en avoir 13. À 13 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Souvent, je suis tombé amoureux, mais pour une fois, c'est réciproque. J'abandonne lâchement tous mes potes, je vois plus que ma meuf, on fume des clopes. 14 ans, je suis juste un fantôme, du moins, c'est ce que disent mes parents. Chérie veut que je traîne plus qu'avec elle, pourtant, elle me fait la gueule tout le temps. Vu que je déménage, ça nous sépare, je me dis que l'amour, c'est surcoté. Mon frangin m'éclate au basket, alors je préfère abandonner. J'ai 15 ans, je regarde Kids en boucle, je traîne avec des gars comme Casper. Mon père est sévère avec moi, donc je le répercute sur mon frère. À 15 ans, je voulais juste en avoir 16. À 16 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. J'descends les marches, la peur au ventre, pour intercepter mon bulletin. À la maison, c'est la guerre froide, on se comprend plus donc j'dis plus rien. J'ai 16 ans et j'passe par la fenêtre, pour rejoindre les autres au skatepark.
On boit des bières, on fume des joints, et je raconte tout ça dans mes raps. Les années passent, même un peu trop, au point que j'ose plus chanter mon âge. Mon frangin filme quand je mets la bague, ma frangine anime le mariage. Les choses que j'ose dire à personne sont les mêmes qui remplissent des salles. Maman est là, mon père est fier, et l'univers est pas si mal. À 16 ans, je voulais juste avoir 17. 17 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. À 5 ans, je voulais juste en avoir 7. À 7 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête.
Mon Paris est fait.